Hello les loulous, bienvenue, merci d'être là en ce lundi matin si je dis pas de bêtises. Hop, je règle tout, si j'ai pas fait de bêtises, ça va, ça devrait aller. Ok, super, lundi 17 novembre 2025, on est tombé du lit ici, hein. Quelle heure il est? Comment ça inonde nous, hein? petite ref, un stream d'hier soir, ça me plaît, avec Camille Combal, on a fait bien des bêtises, on a notamment fait des, comment ça s'appelle, des ombres chinoises. Avec des chaussettes, c'était un joli stream. Merci Joe pour le raid. Bienvenue en ce lundi 17 novembre 2025, nouvelle semaine de stream. Salut Sky, Sa, Wither. Fais voir. Fake news ou real news? Ouais, désolé, on est quasiment à 1000 là sur mon compte. Ah, ouais. Fais voir ton historique. Excusez-moi. Je suis déjà sur un historique. Mais peut-être que tu nous regardes. Ouais, je pense que tu. Je pense que Sky Sa Wizard nous regarde avec une PS2. Voilà. Et avec un modem AOL. Voilà. T'as entendu le bzz, 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 au début là quand tu t'es connecté? Bienvenue en tout cas. Merci d'être aussi nombreux, c'est début de stream. Ouais, désolé de lancer si tard. C'est vrai que le stream d'hier soir avec Camille Combal était cool, quoi. Merci. Désolé de lancer si tard. Mais j'avais un rendez-vous médical ce matin qui a, en plus a été déplacé d'une demi-heure, quoi. Voilà. J'avais peur de lancer à 11h30, il est 11h28, en vrai on est limite en avance. Pas de nouvelles de Camille Combal, qui a eu qu'à très, qu'a, qui est un mec qui travaille, qui a un... on n'a pas dévoilé son emploi du temps hier soir, mais je n'ai rien compris. Comment peut-on avoir un emploi du temps aussi chargé, quoi? Et donc, comme tous les gens un peu occupés, il a pas envie de tomber malade. Ouais, et quand il a appris hier que j'avais un petit rhume, mais rien du tout. Si je puis me permettre, l'imitation du modem est très mal faite. Bah, pas du tout. Ouais. C'est étrange d'avoir des messages comme ça. Bah oui, c'est tard, j'ai presque terminé mon défunt. Alors, quand on sait que Staff est thanatopracteur et qu'il travaille sur le corps des gens, mort, hein, mort, thanatos, la mort, bah, ce message n'est pas si surprenant. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, tu bosses plus que lui. Non, je crois que j'ai trouvé mon maître. Voilà. Et du coup, alors Camille, il se dit hypocondriaque. Non, en fait, c'est juste qu'il a une semaine de fou. Radio, télé, event. D'ailleurs, avec, je crois qu'il sera avec Mastu. Il a un truc mercredi soir au Grand Rex. Je suis en train de leak, je ne sais même pas si c'est annoncé. Autour un truc, un événement. Ah, c'est avec Joyka, t'as raison, c'est avec Joyka, ouais. Voilà. Bref, il a mille trucs et il a pas envie de tomber malade. C'est mardi soir, tu crois? Je sais plus. Voilà, c'est cette semaine, il a un truc. Bref, il a mille trucs et il a pas envie de tomber malade. Parce que du coup, une semaine comme ça, quand t'es malade, bah c'est plus compliqué que quand t'es en bonne santé. Voilà. Donc comme il a vu à un moment que j'étais enrhumé, que Joe. Alors évidemment, moi quand j'ai vu sa panique, j'ai essayé de. Attends, je vous donne le sommaire TikTok parce qu'on n'y est pas encore. Mais on y est dans un instant. Rappelez-moi bien à vous le remettre par contre. Mode édition, mode réalisation, c'est pas ça. Oui. Vous pouvez quitter, oui. Oh, je suis en train de tout casser. Bougez pas. Oh, attendez. TikTok, je suis en train de vous réaliser ça, de faire des trucs jolis et tout, mais encore faut-il que j'y arrive. Comment on fait déjà pour mettre cette. Bougez pas, bougez pas. Je suis en réel, je suis en réel. Passer en live ensemble, invité du co-hébergement. Venez... Oh, vraiment, hey, pardon, pardon pour les devs de TikTok, mais l'appli TikTok Live, c'est vraiment. C'est une bouse. C'est une bouse. Je suis désolé, ami TikTok. Mais l'outil de TikTok Live, c'est une bousasse. Mais une bousasse, ça n'a. C'est ni fait ni à faire. C'est vraiment pas un truc qui est pensé pour le live, quoi. Autant la commu TikTok, on vous aime. Mais alors, l'outil TikTok Live, c'est une merde. C'est une merde. C'est imbitable. Je ne sais même pas comment revenir à la réal, là. Comment je vous mets ça bien? Non, ça, c'est pas ça. Attendez, je vous corrige tout, là. Je voulais vous enlever le sommaire. Je voulais vous faire des belles choses. Je sais même pas comment on fait. Quelle merde ce logiciel. Bougez pas, je vous remets ça bien. C'est pas très intuitif quoi. Information du live. Non, ça c'est ok. Mais je veux pas être là-dessus moi. Alors, limite je vais relancer. Hein. Désolé. Hein. Non mais je vous aime. Mais alors TikTok live c'est une dinguerie. Comment je fais ça bien? Non, parce qu'en fait, là, je suis dans l'impossibilité de vous mettre les articles. Parce que je suis pas sur le bon lien. Outils. Information du live. Centre live. Bon, ça, c'est une bouse aussi. Ça sert à rien, ça. Ah, bah, je crois que j'ai quitté là. Ah non, pas encore. Non. Je vous règle ça. Hein. Mais non, je veux pas grimper dans le classement quotidien pour avoir des récompenses. Je m'en fiche des récompenses. Je voudrais juste pouvoir streamer un truc propre. Vous êtes tout seul? Ouais, je suis tout seul. C'est fait maison ici. C'est très artisanal. Attendez, je vous règle ça. Passer en live ensemble, outils. C'est juste que tout va bien pour l'instant. Je vais pas pouvoir vous mettre les journaux dans un instant. Attends, attends. Bizarre. Mode réalisation, ça ne nous intéresse pas trop. Ça me bouge ce truc. Là, j'ouvre des trucs qui servent à rien. Oh, écoutez, vous savez quoi? On va pas s'embêter. Je vais cut le live TikTok. Je vous relance dans 10 secondes, ok? Non, l'outil est pourri. J'en ai pour littéralement 10 secondes, ok? Je relance. Allez. Je viens de claquer la porte à 300 personnes. Allez. Ok. Démarrer le live. Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai tout fermé. Ami de Twitch, j'arrive. Oui, on va pas tortiller du cul, on va le faire. En fait, c'est un truc en ligne. C'est pas un logiciel sur ton PC. C'est un truc en ligne. Et vraiment, le truc est pas optimisé, quoi. Bien sûr qu'on a regardé un petit peu le stream for Humanity, c'était super, hein, bravo. Bravo à ce qu'ils ont fait, quoi. Ah, là, on est bien, là. Mode édition. Voilà, ok, super. C'est reparti. Là, on est bien. C'est bon. Ah. 1,5 million d'euros, c'est beau, hein. Voilà. Ami TikTok, désolé, je suis de retour. Voilà, désolé, le logiciel de live TikTok, il est pas foufou. J'ai préféré relancer dans de bonnes conditions, comme ça vous aurez tout. Voilà. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? J'ai vu que certains étaient beaucoup sur Stream for Humanity et vous avez eu raison de le faire. Tout ce week-end, on a streamé, bien sûr. On a fait. Vendredi, on n'a pas streamé le soir. On a fait une revue de presse le matin. Samedi, j'ai fait une revue de presse exceptionnellement l'après-midi. Ça a fait 6 revues de presse. Ça a fait 6 revues de presse la semaine dernière au lieu de 5. Hein. C'est cadeau, c'est gratuit. Madame, j'en ai un petit peu plus. Est-ce que je vous le mets? Est-ce que je vous le laisse? Samedi soir, on a fait un stream sur Twitch Valorant 21h, 2h30 du matin, hein, avec 4 wins enchaînés avec les amis de la 5 Stack. Dimanche soir, il y a eu sur Twitch toujours le simplay avec Camille Combal. Tu leaks l'arrivée de Mastu le mercredi 19 novembre à 12h. Ah, c'est pas un leak, c'est une annonce. Et voilà. Mais sur chacun de mes streams de ce week-end, j'ai dit. Allez voir les amis de Stream for Humanity parce que c'est exceptionnel ce qu'ils font. Et je crois qu'éditorialement, il y a eu un très beau contenu. J'ai pas vu le match de foot. J'ai vu plein d'extraits sur les réseaux. Ça avait l'air pas mal. Hein. J'ai vu des beaux gestes, j'ai vu des belles prouesses. J'ai vu Mister V qui était très en forme, je crois. En mode un peu troll, non? J'ai vu Cocotte qui a fait des belles actions, n'est-ce pas? Freddy Gladieux était au commentaire. Bon, alors ça devait être exceptionnel. Il devait être exceptionnel comme d'habitude, Freddy. J'ai vu que JL Tommy a été un immense gardien, n'est-ce pas? J'ai vu que JL Tommy a été un gardien immense, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est bien ça. J'ai vu des petites moqueries là-dessus. J'ai vu des proches de JL Tommy dire sur Internet je m'en vais, je te quitte, je ne peux plus. Je ne peux pas cautionner ça. J'ai eu beaucoup, voilà, il y a eu beaucoup d'humour. Les réseaux, c'est parfois des dingueries, parfois beaucoup de violence, mais c'est aussi beaucoup d'humour. Il y a des choses sympas aussi. Bon, après, il faut faire son petit tri, quoi. Je suis habitué, moi, je suis vieux. Très vieux, même, disent certains. Donc, c'était pas mal. Donc, vous avez aimé? Envoie-moi, Wendy. Envoie-moi un message. Envoie-moi un mail. Wendy me propose de devenir modo sur TikTok. Envoie-moi un mail sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon compte X, et t'as mon mail pro. Envoie-moi un petit message pour m'en parler, Wendy. Ah oui, vieux et sénile, oui, c'est. Ah oui. Ton analyse est fausse. J'ai raison. Pourquoi? Quel est mon argument? Bah, parce que tu es vieux et sénile. Ok. Faire attention parce que parfois les juges sont vieux et séniles aussi. Tellement ri ce week-end. Je me régale, moi, maintenant. Je vis ma meilleure vie, moi. Bon, et regardez qu'est-ce qui nous attend mercredi. Le retour de MVP. C'est mercredi. Alors, on a eu 2 semaines sans MVP parce qu'on avait d'autres trucs à faire. Voilà. Bah, envoie-moi un mail, Captain Wewi, en vrai. MVP, c'est quoi, Oscar? Ah, c'est une émission dont je suis très fier. Ça fait quoi d'être parrain de l'EDJ? Je suis très fier, Simon. L'école de journalisme. Mais MVP, Ma Vie Pro, c'est une émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Je m'explique, t'es collégien, t'es lycéen, t'es étudiant, voire tu travailles déjà, mais tu t'interroges un peu parce que éventuellement tu aimerais changer de taf ou de secteur d'activité. Eh bien, MVP, c'est une émission qui explore les voies pro, voilà. Les secteurs d'activité, les métiers, pour que chacun puisse se projeter en disant « Ah, mais tiens, mais moi, j'aimerais bien faire ce métier. » Et on a une ribambelle d'invités, de chroniqueurs. C'est 3-4 invités à chaque émission, 3-4 chroniqueurs à chaque émission, un invité MVP avec lequel on revient sur sa carrière, qui peut être qui peut être source de réflexion pour ceux qui s'interrogent sur le propre parcours professionnel. Tu vois, il y a Great Blind Mole qui dit « Je suis en pleine reconversion, cette émission m'a redonné confiance en moi. » Ça ferait plaisir. Voilà. Et donc, là, par exemple, je vous ai mis l'affiche de l'émission de mercredi, donc 10h, sachant qu'il y aura une petite revue de presse avant. Salut Chacha, je suis d'accord avec le fait que tu t'exprimes sur ma chaîne, mais je ne suis pas d'accord avec ton avis. Mais tu t'inquiètes, on aura l'occasion d'en reparler quand les choses, quand les gens compétents ont tranché sur cette affaire. Mais je ne regrette pas une seule virgule de ce que j'ai fait, puisque moi j'ai les infos, les vraies infos là-dessus. Et donc, mercredi, nouvelle émission, 10h sur ma chaîne Twitch, hein, c'est que sur Twitch. Voilà. Avec la belle bande d'invités, hein. Ludovic, le spécialiste des métiers, Lorraine Lévy, qui est une spécialiste des bonnes conditions de travail, ouais. Parce que c'est cool de bosser, mais autant le faire dans les conditions ok, quoi. Notamment de la santé mentale au travail. Et puis et Marie Palot, voilà, donc une belle bande, voilà. Et puis des invités, plusieurs invités, dont un invité principal avec qui on passera littéralement une heure de 12h à 13h, qui est Mastu, créateur de contenu, célèbre créateur de contenu, et avec qui on viendra un petit peu son parcours, joli parcours, voilà. Mastu, peut-être que je reviendrai sur l'origine de son pseudo que certains connaissent peut-être. Voilà, ça c'est mercredi, ok. Ça c'est mercredi et ce sera sympa. Voilà. Donc, maintenant que je vous en ai parlé, je peux vous enlever la fiche puisque on va passer à la revue de presse dans un instant. Alors, vous avez passé un bon week-end, vous ? Ça va. Alors, le thème du jour, c'est t'as raison. Alors mercredi, on parlera de plein de choses, mais il y aura un thème principal, c'est les métiers de la SNCF, métiers du transport, métiers de la SNCF. Question intéressante de terre à terre politique. Hello Étienne, appelle-moi Sam. Que penses-tu de l'écart énorme qui se crée entre les opinions politiques RN et LFI? Tu parles de cette polarisation extrême des opinions en France, amplifiée par les plateformes, par les réseaux sociaux qui ont un intérêt à le faire, économique à le faire. Donc nous sommes un petit peu manipulés, moi je pense, par ces plateformes et ces réseaux sociaux qui ont besoin de cette polarisation pour faire du buzz, du clic, du like, du retweet. Et étonnamment, on a deux articles très intéressants sur le sujet ce matin. Voilà. Donc, c'est pas tellement moi qui vais vous en parler ce matin, c'est deux personnes, voilà, dans deux articles. Et les médias aussi. Et les médias, Desmond Mal, tu as raison. Donc, très bonne question et des éléments de réponse ce matin avec deux beaux articles. Ouais. Je vous montrerai ça dans un instant. Bon anniversaire Inès. Est-ce qu'on peut faire un bon anniversaire à Inès ? Merci Chacha. Ouais, je sais. Je comprends tout à fait ton point de vue. Est-ce qu'on a des nouvelles de Camille Combal ? Camille ne m'a pas écrit ce matin. Je vais lui envoyer un message. Camille Combal, donc, qui redoutait que je lui passe mon rhume hier soir. Ok, je vais lui envoyer. Alors, Camille, il est où mon Camille ? Il est sûrement. Comment ça, il est sûrement mort du Covid ? Arrêtez. Il a une semaine de fou. Merci pour les joyeux anniversaires. Inès, tu es dans le chat TikTok. Sache que dans le chat Twitch. Oh, c'était drôle. Dans le chat Twitch, il y a plein de messages qui te souhaitent bon anniversaire, Inès. Ils sont comme ça sur Twitch. En pagaille, des ribambelles. Hello mon Camille. Encore merci pour hier soir. Je suis sûr que tu n'es pas malade. Sûr que tu n'es pas malade. Petite méthode couée un petit peu. Perso, je suis en pleine forme. Hein ? Parce que là, vous voyez bien, je pète la forme, quoi. Je peux pas passer un virus que je n'ai pas, bordel. Perso, je suis en pleine forme. Et ça m'a fait tellement plaisir de le recevoir, il est tellement gentil. Par contre, je suis un peu trop caféiné parce que j'avais un rendez-vous ce matin, puis j'ai enchaîné les cafés. Voilà, je lui fais un petit cœur. Les cures, ça guérit les virus. Let's go. Bizarre le message. Encore merci pour hier soir, je suis en pleine forme. Ouais, j'avoue. Hors contexte. Merci Eto Cello. Merci. Oh là là, j'ai... attends, faut que je remercie les subs dans un instant. Hors contexte. Merci pour hier soir, je suis en pleine forme. C'est bizarre. D'autant qu'on a. On a fait les coquins un peu hier avec Camille. On a dit beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Inès remercie les gens de Twitch pour le joyeux anniversaire, sachant que dans le chat TikTok, il y a aussi des joyeux anniversaires pour Inès. À quand le retour des foulées, Étienne? Alors, moi, j'ai repris le sport, toi, André. J'ai repris le sport, je suis en train de me remettre en forme, là. Hein. Je suis en train de préparer mon body summer, hein, comme ça se tatoue de plus en plus. Hein, bientôt, un immense dos tatoué. On veut que le support soit joli. Donc là, j'ai repris le sport, mais pas encore. Je n'ai pas prévu de refaire du sport en live pour l'instant. Sympa ces bons bon anniversaire à Inès de partout là. C'est plaisir en vrai. C'était bien avec Camille, vous avez aimé? Bon, sachez que c'est en replay hein, sur Twitch, sur YouTube, gratuitement. Hein. Je sais que c'est pas l'usage, mais est-ce qu'on peut réinviter Camille dans Samplay ou alors créer une émission exprès pour lui parce que c'était la rigolade? Camille, il devrait surtout venir sur Twitch, il devrait créer sa chaîne. Il devrait créer sa chaîne surtout. Il devrait devenir streamer. Et je pense que ce serait formidable. Quand je pense que Joko s'est posé 1500 questions avant de faire le poste et Samuel saute les deux pieds dans le plat. Sur quoi mon Gu? Sur quoi j'ai encore mis les pieds dans le plat? J'aime bien mettre les pieds dans le plat moi. Après c'est des petits plats parce que j'ai des petits pieds. Ah, j'ai pas vu ça sur Arte, Sébri. Moi aussi, je t'aime. Je peux pas. T'as pas de pseudo, t'as juste un petit point. Mais merci. Ton pseudo, c'est juste un petit point, une petite apostrophe. Je sais pas ce que c'est, mais moi aussi, je t'aime. Ah non, j'ai pas les pieds plats. J'ai des pieds. Pas plats. Des pieds pas plats. Sur la photo Insta qu'il a posée. J'ai pas vu. Alors tiens, à propos de Joe. Joe, il est persuadé d'une chose. Hier, je lui ai dit, tiens, quel jeu je pourrais... combien de doigts, pied par pied? Bah 6, 6 et 6, 12 comme tout le monde. Joe, il a lancé un débat hier. Lui, il voudrait que je lance un arc LOL sur Twitch. Un arc gaming LOL. Il est persuadé que c'est le truc que je dois faire. Que les gens vont être fous de joie. Voilà. Et la réaction du chat hier soir, c'était non, surtout pas. Tiens, Camille dit je déteste ce jeu. Hein. Y a Sugar qui dit je donne ma vie pour ça. C'est la hype du moment, lol, fonce. Mais c'est une hype qui n'est pas du moment. Ça fait longtemps que ce jeu il déchaîne les passions. Non, tu vas pas en toucher une. Eh ben, c'est pas grave, c'est comme sur tous les autres jeux auxquels je joue. Hein. Vous m'avez vu hier sur Splinter Cell. Non, c'est extrêmement complexe. Lol, dit Wadex, tu es trop vieux. Tu es sénile, même diraient certains. Oh non, on souffle, lol, ça pue. Pourtant, il faut que je remercie les subs, il y en a trop. Arthur Rezio, merci pour le 30e mois. Eto Cello, merci pour le 51e mois, nom de Dieu. Il y a des gens qui me soutiennent mois après mois depuis 51 mois, vous vous rendez compte. Scroff, merci pour le 18e mois, c'est énorme. Nanjou, pour le 50e mois, mais vous êtes des malades. Dounis, pour le 51e mois d'abonnement. Mais c'est gigantesque. Galmendra, merci pour le 3e mois. Firmuche, merci pour le 13e mois. Yann Ilxp, merci pour le 19e mois. Emric Sélois, merci pour le 3e mois. Joe, merci encore pour le raid. C'est fou, hein? Merci Mister So pour le 22e mois. So comme le film? Affreux. Vous vous rendez compte, 51 mois d'abonnement? Dis donc, ça nettoie, là, ça tire à vue, là, bravo. C'est les polémiques de X qui viennent sur TikTok et sur Twitch. Oh, j'adore! Ça vole pas haut ce matin, je sais pas ce qui se passe ce matin. Ah bah c'est rien, c'est les réseaux ça. C'est rien du tout, vous inquiétez pas. Ça fait des stats, hein. Les gens qui viennent troller là, n'oubliez pas que ça fait des vues, hein. Ça fait des vues, ça fait des followers, hein. Faut les accueillir, faut les embrasser. Hein. Salut mon pantouf, tu vas bien? Pantouf, tu te penses que LOL c'est dangereux pour la santé mentale, c'est ça? Oh, pas plus que Twitter, hein. C'est la connaissance plus que du skill. Ah c'est pas très bon pour moi, Sugar, ça. Bien sûr, Sarah Fistol. Je regarde TikTok. Il vient où ton pseudo magnifique, là? LOL, c'est vraiment un jeu trop toxique pour toi, me dit Chacha. Pour moi, il faut que tu l'évites, ce jeu. Mais si t'es en team de 5, alors tu pourras t'amuser. Mais on m'a expliqué, t'es midlife. J'adore ça. T'es midlife. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que je disais? Oui, mais Joe m'a expliqué que jusqu'au niveau 20, t'es tout seul de toute façon. Sarah Fistol, un petit jeu de mots de mon grand-père, j'aime trop. Ah oui, Sarah Fistol. Tiens, je viens de comprendre. J'adore. LOL avec quelqu'un qui t'aide, ça se fait. Bah, je pense que, mais au début, je pense qu'au début, c'est un long tuto de jusqu'au niveau 20, je crois. Et après, on fera de la five stack, quoi. Ouais. On est à 5 sur LOL, c'est ça? Salut Hélène, merci pour ton message. Jouer à LOL va réduire ton espérance de vie. Etienne, touche pas à ce jeu. Oh, c'est pas très grave, vu que je suis à moitié sénile déjà. J'aime bien cette ambiance ce matin. C'est surtout une commu toxique. On est habitué. C'est pas un jeu qui demande tant de dextérité que ça, c'est plus de la connaissance et stratégie, tu peux jouer correctement. Ouais, bizarrement, je pense que je suis moins bon sur la connaissance et la stratégie que sur le skill, quoi, parce que je comprends pas vite, quoi. Faut m'expliquer longtemps, disons. LOL, c'est dangereux que si tu as un ego, si tu es humble et enthousiaste, tu vas apprécier. Bah voilà. Eh ben voilà. Il faut au moins 5 mois de tuto, dit Wadex. Chaque game perdue sur LOL fait perdre 2% de tes cheveux, je dis ça, je dis rien. LOL transformait un moment de détente en un moment de se faire insulter par 4 inconnus. J'ai arrêté il y a plus de 10 ans, meilleure décision, me dit Poitre Renegade. Merci, merci Jules. Ah, j'adore. Et vous savez quoi? Et pourquoi tu me cites à chaque fois? Parce que j'adore tes messages, Wadex. Ça me donne envie de lancer LOL, votre truc là. Vous me donnez tellement envie de lancer LOL là. Il y a un arc là. Et oui, ça rallume. On a une Sarah Fistol chez TikTok, ouais. Bisous, staff. Bonne journée. C'est jusqu'à niveau 30? Je sens que je vais. Oh bah. Je sens que je vais lancer un arc LOL. Il y a Sarah Fistol qui quitte un instant le chat TikTok pour aller dire bonjour sur le chat Twitch. C'est incroyable ça. Lance LOL, de toute façon, je regarde que ton crâne, pas ton gameplay, me dit Nika. J'adore. On lance l'actu, t'inquiète, t'inquiète, Sam, on y va. J'ai un Sam qui s'impatiente. Ok, on va y aller. Normalement, l'intro, c'est 30 minutes ici. On a combien là? 28 minutes 49, on est large dans les temps. Large dans les temps. TFT, j'ai déjà fait un petit peu. Sam, tu peux jouer à 5 dès le niveau 5, pas besoin d'attendre le niveau 20, ok. C'est la commune la plus toxique de tous les jeux auxquels j'ai joué. Ok. C'est niveau 30 pour les ranked, ok. Le jeu te fait avancer lentement, exprès en te faisant tomber avec des abrutis, le matchmaking est horrible en solo queue. Ouais, bah c'est comme Valo alors. Bon, on est habitué alors. Bien sûr, petite dédicace spéciale à Mama, Mama spéciale dédicace pour toi. Tu fais quoi cet après-midi? Je fais un shooting. J'ai un shooting mode. Parce que c'est une carrière dont je parle pas beaucoup, mais je suis mannequin aussi. Donc je fais. Oh, j'ai 2-3 heures de shooting. De mes yep. Je suis mannequin pied. J'ai des pieds incroyables. J'ai des pieds, c'est des. C'est de. Le photographe, il exagère toujours, mais il dit que j'ai des pieds divins. Ouais. Je suis mannequin yep. Donc là, je fais une grosse séance de photos cet après-midi là. C'est un marché niche, mais y a des gens qui achètent. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cette bonne humeur que je vois là de bon matin. Ça fait bien plaisir. Merci d'être aussi nombreux. C'est fou, quoi. J'ai mon OnlyFans, hein, pour ceux que ça intéresse. Point d'exclamation OnlyFans dans le chat Twitch. Les abonnements. En plus, c'est le Black Month là, c'est comme Black Friday, mais il y a des promos tout le mois là. N'hésitez pas. C'est vrai que t'es sénile apparemment. Oui, Kibber. Mais attention, comme beaucoup de juges en France aussi. Il faut faire attention avec ça. Parce que parfois, il y a des gens qui sont âgés mais qui sont encore en capacité de prendre des décisions. Salut Marine, j'espère que l'oral s'est bien passé. Bon les amis! On y va sur l'actu ou pas? Let's go. Vous êtes prêts? Après la petite intro là? Let's go. Ok. Bon, c'est parti. Bon. Un petit peu d'eau. J'ai de l'eau, super. Ah! Un avis pour Stream pour Humanity. Nika, j'en ai parlé tout à l'heure, désolé, je vais me faire engueuler par ceux qui attendent l'actu. D'autant que cette revue de presse, on l'a lancée un petit peu tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faut peut-être que je vous branche la tablette là. Allez. Le sommaire sur TikTok, vous l'avez depuis un petit moment, je vous l'ai mis. Voilà, hop. Twitch, vous l'avez aussi. Tac, 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 tac. Alors là, je suis sur Disney+. Ça va pas nous avancer, on va se mettre sur les articles. Ok, c'est parti. Alors, on est donc sur le sommaire. Ok. Ok, c'est parti. Et le sommaire, vous l'avez ici. Pas mal. Ok. Ouais, il tient debout, il tient bien debout, ouais. Il tient tellement debout que je peux prendre n'importe qui en 1v1, moi. Invitez-moi au Déter Fight, bordel. J'aimerais qu'il y ait un Déter Fight 2 et qu'on m'invite. Vous verrez comment je tiens debout. Sommaire. Ok. C'est parti. Ok. Je voudrais affronter qui? Mais n'importe qui, je prends n'importe qui, moi. Sommaire. Ok, je vous ai tout mis ça. Et TikTok, pareil, je vous mets la petite flèche. Ah, je vous mets peut-être même les articles. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Voilà, on a tout. Sommaire. Vous êtes prêts? Allez, le sommaire en 2-3 minutes, j'essaie de faire vite. Là, c'est vraiment. On va glisser sur l'actu, juste vous dire l'essentiel. Ok? De quoi on va parler? Bah, d'abord de ça. Le Cornu sous la menace d'une impasse budgétaire. C'est la une du Figaro ce matin. Que nous dit le Figaro? Si le Premier ministre se défend de vouloir passer en force et espère encore trouver un chemin parlementaire pour faire adopter le budget, l'étau se resserre sur les députés engagés dans une course contre la montre. Je crois que la question est de savoir si ce budget va réussir à passer par un vote du Parlement. Ou si ça va passer notamment par des ordonnances, une loi spéciale. Voilà. Est-ce que c'est plutôt le Parlement qui aura la main ou plutôt le gouvernement? Bon, merci au Figaro de nous faire un petit point. Comme ça, on saura à peu près où on en est. Premier sujet. Deuxième sujet. Libération a décidé de s'intéresser à l'Italie, à Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil. Hein, c'est la chef. Salut Noctali, bonne journée, de l'exécutif en Italie. Et certains, notamment en France, depuis quelques temps, disent waouh, l'Italie, c'est génial, c'est formidable ce qui se passe, notamment sur le plan économique. Giorgia Meloni, c'est une goat, et Libé n'est pas d'accord avec cette analyse et nous le fait savoir. Le mirage économique, donc c'est pas le miracle économique, c'est selon Libération, qui peut se tromper, hein, le mirage économique. Vanté par la droite et l'extrême droite française pour ses résultats, la présidente du Conseil italien surfe en réalité sur les réformes de ses prédécesseurs et profite des aides massives de l'Union européenne. Donc, moi j'ai vu ça ce matin, je dis ok, c'est intéressant. Vous allez me dire, mais vous allez me dire, parce qu'il y a des gens dans le chat qui disent, ouais, Libé, les gauchistes, tu m'étonnes que Libé soit pas d'accord, je vous lis, hein, je vous vois. Hein. Et devinez qui dénonce les aides massives de l'Union européenne à l'Italie? Alors ça m'a surpris, ça m'a même fait un petit peu rire ce matin. Hein, les gens qui disent, ouais, les gauchistes. Devinez qui dénonce les aides de l'Union européenne à l'Italie? Marine Le Pen! C'est excellent. C'est pas les gauchistes, c'est l'extrême droite en France. Là, qui dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va bien rire ce matin. Dossier dans Libé. Ok. Ensuite, je vous emmène aux États-Unis. Là, tout de suite, ça a mis un petit calme dans le chat pour ceux qui disaient, ouais, c'est les gauchistes qui dénonce Mélanie. Bah non, en fait, chez nous, c'est Marine Le Pen. C'est très rigolo. Donc, après, on va aux États-Unis avec le fantôme de Jeffrey Epstein. Epstein, ils disent un peu aux États-Unis. Voilà, c'était le gars qui était en prison là pour enfin, on va voir pourquoi déjà. Pour, je sais même pas comment qualifier ça, moi. Exploitation sexuelle de mineurs, voilà. Et donc fantôme parce qu'il est mort, hein. Alors, suicidé en prison. Alors certains affirment qu'on l'a suicidé. Et Trump est en train de se prendre les pieds un peu dans le tapis. Parce que, pourquoi ? Parce que Trump, avant l'élection, sa réélection, il avait promis de sortir le dossier, de révéler et de publier le fameux fichier dans lequel il y avait tous les noms des gars qui auraient profité du système. Donc il promet ça avant l'élection. Bon, il ne vous a pas échappé que le président Trump a été réélu. Et le dossier, eh ben, il n'est pas ressorti. Il n'est pas sorti, il n'a pas été publié. Aïe ! Et du coup, qui aujourd'hui dit à Trump le fichier chouchou ? Mais à Vincent, aucun problème. Et Vincent qui me dit « Salut Samuel, je t'aimais bien, mais je vote RN, ai-je le droit ou vais-je être ban ?» Ah non, 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 t'as pas compris. Ici, moi, je discute avec tout le monde. Le fait que tu votes RN, non seulement n'est pas un sujet de ban, au contraire, ça m'intéresse. Moi, j'adore discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, je ne dis pas que je suis d'accord avec toi, Vincent. Mais en revanche, je suis très content de discuter avec toi. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, en fait. D'ailleurs, les gens de l'autre camp me le reprochent, parce que les gens de l'autre camp, ils ne veulent pas qu'on discute avec gens du RN. Et moi, je pense que les gens qui votent RN, faut ni les insulter, ni les mépriser. Faut discuter avec eux. Hein. Et on discute, on est d'accord, pas d'accord. Moi, j'essaye de vous convaincre que c'est pas une bonne solution pour la France. Mais je trouve que c'est intéressant de créer un espace où on peut discuter. Parce que si on peut plus discuter, c'est un enfer. Donc reste, au contraire. Reste. Donc voilà. Et donc, je vous le disais, qui dit aujourd'hui à Trump, dis donc, il faudrait sortir le fichier ? Eh bien, notamment ses électeurs. Les électeurs du camp MAGA, qui sont en train un petit peu de se rebeller et qui disent à Trump, bah dis donc, le fameux fichier, pourquoi tu ne le publies pas ? Donc on verra ça dans Libération. Certains nous parlaient ce matin, tout à l'heure, qu'il y avait une question dans le chat TikTok très intéressante, mais qu'est-ce que tu penses de la polarisation ? On va reparler du RN. La polarisation, tu vois, il y a Vincent, il nous dit, il faut que tout le monde discute malgré nos divergences, mais pas tout le monde l'accepte malheureusement. Bah, moi, je suis full d'accord avec toi. La polarisation des opinions politiques en France. On a, c'est vrai, un paysage politique qui est extrêmement polarisé, hein, à l'Assemblée, hein, chez les Français aussi, voilà, avec notamment le bloc LFI et le bloc RN, pour ne citer que ça. Voilà. Et ça crée des tensions, on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on a deux articles très intéressants ce matin sur le sujet, sur cette polarisation et sur qui en sont les responsables finalement. De ce climat qui devient un peu tendu quand même. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc on a Chloé Morin, quelqu'un que je ne connais pas bien, qui est... est-ce que c'est une sociologue, une philosophe ? Une essayiste, ok. Qui signe, je trouve, dans l'opinion, un article très intéressant. Voilà. Qui dit que la politique en France, elle est en train de s'aligner sur les logiques des plateformes. Alors j'ai lu l'article... Mais non, Alkesh, c'est beaucoup plus compliqué ça. Et tu vois, il y a Alkesh qui m'attrape la veste, qui dit « Comment ça, les électeurs FN, il faut discuter avec eux ?» Mais bien sûr, quand tu votes extrême droite, soit t'es raciste, soit t'en as rien à carrer de mettre les racisés dans la mouise. La mouise, Alkesh. Moi, je pense que les électeurs du RN se trompent. Je le dis depuis 30 ans. Avant, c'était le FN. D'ailleurs, tu dis FN, c'est intéressant. Je ne change pas d'avis là-dessus. Mais il faut essayer de les convaincre qu'ils se trompent. Comment tu veux les convaincre ? Si tu as décidé de ne pas parler avec eux, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc moi je valide pas ce vote, j'essaie de le changer. Mais je veux parler avec ces gens-là. Voilà. Et donc Chloé Morin, elle dit que la politique en France, elle est en train de s'aligner sur la logique des plateformes. En fait, quand elle dit plateforme, elle dit réseaux sociaux. Voilà. Image, immédiateté, vraisemblable qui supplante le vrai. C'est extrêmement intéressant. Elle accuse la politique, les politiques finalement, de s'aligner sur l'immédiateté, l'émotion. On n'est plus sur la réflexion, on n'est plus sur l'analyse, on n'est plus sur essayer de rapprocher les gens, hein, pour créer communauté, mais au contraire, on flatte les instincts les plus premiers, primaires de chacun pour cultiver un petit peu son fonds de commerce électoral, sans penser finalement au pays. Et bien j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc on lira cette analyse de Chloé Morin, vous me direz ce que vous en pensez. Et on a un autre article ce matin qui va un petit peu dans le même sens, de Dorian Dreuil, c'est plus une tribune qu'un article, d'ailleurs qui est membre de l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès, et qui dit « Oui, on a un problème de polarisation en France, et les médias ont un rôle à jouer, qu'ils ne jouent pas aujourd'hui, pour plutôt essayer de rapprocher les gens que de les éloigner. Voilà. Ici, on ne fait pas que souligner les problèmes, on essaie aussi peut-être de trouver des débuts de réponse. Je vais vite parce qu'on est dans le sommaire, ok? Merci Elie Kochol pour le 30e mois d'abonnement. Merci Valtsum75 pour le 45e mois. Merci à tous les deux. Donc on lira ces deux sujets. Et puis on finira avec un sujet un peu plus chill. Vous l'avez vu, parce qu'on parlera de jeux vidéo. Comme moi, vous êtes peut-être abonné à Netflix et à ce genre de plateforme, tu vois, Amazon Prime, Disney+, Apple, tout ça. Et Netflix, il y a des jeux vidéo sur la. Quand tu arrives sur l'appli, tu as des jeux vidéo. Alors j'avoue que je suis jamais trop allé voir, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ou pas? Et là, on a un article dans les échos sur Netflix qui lance sa nouvelle stratégie dans le jeu vidéo. Depuis son studio finlandais Next Games, le groupe a dévoilé de nouveaux jeux qui vont venir garnir son catalogue de contenu. Alors moi qui suis un petit peu gamer, vous le savez depuis quelques années, grâce à vous, à ce que j'ai découvert notamment sur Twitch, eh bien, Storyteller, c'est bien. Les jeux mobiles sur Netflix sont qualitatifs. Bah ouais, bah ça, sur mobile, il y a des jeux de trucs sympas. Bah oui, ça, je savais pas. Moi, j'avais un a priori plutôt négatif là-dessus. Et vous me dites que c'est plutôt pas mal. Bon, on en parlera tout à l'heure. Il y a Game Dev Tycoon sur mobile, c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit sommaire? Il a de la gueule, non? Oui, je vois plein de messages dans les deux chats, TikTok et Twitch, sur ce qu'est le vote RN. Et il y a plein d'analyses différentes. Il y a les gens, c'est un parti pour lequel les gens votent pour des raisons parfois très très différentes. Et c'est très intéressant. Vous savez quoi? Ben, je suis content de ce débat. Parce que que vous acceptiez, pour ceux qui l'acceptent, malgré vos différences d'opinion, d'en discuter ensemble et de constater vos désaccords, mais d'en parler quand même, ça, je trouve ça plutôt intéressant. Y compris de venir sur la plateforme d'un vieux gars, sénile, moi, avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord. Voilà. Mais ici, voilà, on essaie de le discuter. Du moment que chacun essaie de tenir des propos respectueux, bien sûr, quoi. Sinon, c'est plus du débat, quoi. Quand je serai élu en 2027, je vais essayer de prôner un peu cette réconciliation nationale, quoi. Voilà. Ce sera. Ça y est, putain. J'ai mon slogan. J'ai mon slogan. 2027, votez RN. Voter réconciliation nationale. Oh putain. Putain, j'ai tout. Ça y est, c'est parti. J'ai mon débat. Alors comme ça, monsieur Étienne, vous êtes contre le RN? Pas du tout. Non, je suis pour. Et là, PLS, le présentateur de débat. J'ai été invité par deux radios aujourd'hui là qui voulaient absolument que je donne mon avis sur le RN. Arrêtez les gars, je garde ça pour Twitch et TikTok. Qu'est-ce que vous allez m'emmerder? Hein. Moi, je suis pour la RN. Hein, je suis pour la RN, je suis pour la réconciliation nationale. Ça y est, on a notre slogan, les gars, on a notre slogan. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais en vrai, c'est vrai, je ferai ça, je ferai ça. Ok. Bon, voilà pour le. Allez, on va partir sur le Figaro et sur le budget pour commencer. Ok? Merci l'émissaire. J'aime trop la bonne humeur qu'il y a dans le chat, là, ça fait trop plaisir. Bah, on est quand même une chaîne où on parle le matin de sujets un peu compliqués, quoi. Étendus, quoi. Mais bon, moi, c'est ma passion, je trouve que c'est important de parler de ces sujets-là. Et je trouve qu'on arrive quand même à le faire dans des bonnes conditions, ce qui n'est pas évident, quoi. Malgré le fait que bah, tout le monde puisse s'exprimer et parfois de dire de façon un petit peu vive sa position sur tel ou tel sujet, quoi. La matinée est-il l'impasse budgétaire? Ok, là c'est bon, la croix elle est bonne. On actualise également le titre de ce stream. Comme ça, les gens qui nous rejoignent, vous savez où on en est. TikTok, je vous mets la flèche aussi. Et puis c'est parti pour le premier sujet de ce matin. Enfin, ce matin, on est bien avancé quand même déjà. Ok, sommaire. Voilà, l'impasse budgétaire. Est-ce qu'on est dans une impasse budgétaire ou pas? On verra. Ouais, normalement, c'est OK. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va. Le cornu, donc c'est. Ah oui, les TC, oui. On est à 45. T'as raison, j'ai oublié. Du coup, on l'a fait à combien le sommaire, du coup? À 30 à peu près? faire 30, 33. Merci. Le Cornu, donc Premier ministre en cours, hein. Le deuxième gouvernement Le Cornu, le premier a duré 24 heures. Le Cornu sous la menace d'une impasse budgétaire. Si le Premier ministre se défend et dit qu'il ne veut pas le faire, de vouloir passer coup de fil de TF1, ça ne s'invente pas ça. Ok. Coup de fil de TF1, ça ne s'invente pas. On rappellera après. Se défend de vouloir passer en force et espère encore trouver un chemin parlementaire pour faire adopter le budget, les taux se resserrent sur les députés engagés dans la course contre la montre. Voilà. Bon. Alors, il y a un article assez touffu, mais je pense qu'il va nous permettre de faire le point sur cette histoire. Ordonnance, loi spéciale, l'ombre d'un budget au forceps, donc un budget qui passerait en force, hein, et non pas par la voie parlementaire, plane sur les députés. Il reste une semaine seulement à l'Assemblée pour débattre du projet de loi de finances avant que le texte ne soit envoyé au Sénat. Ok, donc il y a un petit peu urgence. C'est désormais une quasi-certitude, la partie dépenses du projet de loi de finances ne sera pas examinée à l'Assemblée, du moins pas en première lecture. Ok, on est un peu à la bourre, quoi. C'est tous les matins un croconout. C'est mon WhatsApp, ça. Je vais peut-être le fermer. Ah ouais, on m'a proposé un tournage en moto, là. On m'a proposé de faire des cascades en moto, mais j'ai refusé le tournage. Je suis devenu sage. Vendredi soir à minuit, heure d'interruption de la dernière séance, les députés devaient encore venir à bout de plus de 1527 amendements avant d'en finir avec la partie recette du budget. Voilà. Alors que le vote solennel sur la dite partie était prévu lundi à 15h. Voilà. Le scrutin était reporté, c'était impossible à tenir, quoi. Voilà. Et qui pourrait même, lui aussi, ne jamais avoir lieu. Donc ce vote sur la partie recette du budget. La raison, les délais. C'est ce que je vous disais, les délais constitutionnels pour examiner en première lecture le projet de loi de finances à l'Assemblée sont bientôt écoulés. Le dimanche 23 novembre à minuit, donc c'est littéralement dans une semaine, le texte devra quitter l'Assemblée, rejoindre sa prochaine destination, le Sénat, où les sénateurs devront en débattre à leur tour. Dans une démocratie, il y a des règles pour débattre et adopter un budget. Ben, il y a un temps limite, parce qu'à un moment, il faut bien que l'État soit pourvu d'un budget. Le temps presse donc pour les députés s'ils veulent pouvoir à minima se prononcer sur la première partie de ce budget et ainsi envoyer un signal positif ou négatif sur l'hypothèse d'une adoption du projet de loi de finances, le budget avant la fin de cette année. Le gouvernement a déjà prévu de laisser un jour supplémentaire en organisant le vote solennel sur la première partie du budget le 24 novembre, un jour au-delà du délai fixé normalement par la Constitution. Ce dernier avait même décidé jeudi dernier, le gouvernement, de retirer deux jours de débat aux députés en annonçant la surprise générale que les discussions seraient interrompues durant tout le week-end, contrairement à ce qui était prévu. Merci Ambiello, merci Monsieur Braconnier, merci Étienne, merci pour les soutiens. Ouais, ils ont dit, attention, oui, les députés sont fatigués. Ouais, les députés n'ont pas trop aimé ça. Ouais, puisqu'en fait, vous l'avez compris, ça devait débattre tout le week-end, et puis du côté du gouvernement, on a dit « Ouais, mais les députés sont crevés, on peut pas leur faire travailler 7 jours sur 7 ». Colère d'une partie des députés, notamment insoumis, qui sont beaucoup, merci Raph, qui sont montés au créneau, deux points ouvrés les guillemets, honte à ceux qui veulent nous empêcher de voter sur le budget de l'État, comme ils nous ont empêchés de voter sur le budget de la Sécu, et ça alors que le gouvernement porte l'entière responsabilité des délais contraints en raison de la transmission du texte à l'Assemblée avec 2 semaines de retard. C'est Mathilde Panot qui l'a dit. Voilà. Il y avait une majorité pour demander à travailler ce week-end, mais tout le monde ne l'assume pas, les socialistes sont divisés, jure-t-on, en guise de réponse au sein de l'exécutif. Bon. De manière officieuse, nous dit le Figaro, le gouvernement a toutefois intérêt à faire traîner les débats. Ok ? Pourquoi ? Auprès du Figaro, un député Renaissance prophétisait d'ailleurs, quelques heures avant la prise de parole de Laurent Panifou, le gouvernement a fait une bêtise stratégique en ouvrant les débats le week-end. L'objectif, c'est bien sûr que le texte soit envoyé au Sénat sans le vote de la partie 1. Voilà. Il argumentait, le projet de loi tel qu'il a été amendé depuis le début de nos débats à l'Assemblée, je pense qu'il n'y a pas grand monde pour le voter en l'état. Excusez-moi, j'ai une petite urgence téléphonique. C'est TF1.
I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning out of the blue. You went and I was left behind.
Je suis désolé, vous savez que je décroche rarement au téléphone quand je suis en live. Quand mon épouse appelle, je décroche. Mais là, c'est les amis de TF1. On parle d'un petit truc vite fait là. Et donc, voilà, c'est vite fait. On reprend le budget. Ok, oui, vite fait quoi. Alors, donc, on nous dit que le gouvernement aurait l'air. Aurait un intérêt à traîner. À traîner. Okay. Hein? Certains disent que le projet de loi tel qu'il a été discuté jusqu'ici, il est invotable, puisqu'en fait, il n'y aura pas de majorité pour le voter. Il serait retoqué, ça enverrait un signal d'échec, alors que nous sommes au contraire sur la bonne voie avec le PS et LR, dit-on, du côté du gouvernement. Donc il faut absolument laisser la navette parlementaire entre les deux assemblées, hein, Assemblée et Sénat, les deux chambres, et voir quoi ? Et voir plus loin. Effectivement, après plusieurs semaines d'examen au Palais Bourbon, c'est l'Assemblée, la partie recette du budget ne ressemble plus du tout à la copie initialement proposée par le gouvernement. Voilà. Au total, les députés, particulièrement à gauche et au RN, ont voté plus de 40 milliards d'euros de hausse d'impôts. Il y a beaucoup de rentrées fiscales, de nouvelles rentrées fiscales qui ont été votées par la gauche et le RN, parmi lesquelles une nouvelle taxe concernant les multinationales estimée à 26 milliards de rendement par an, ce qui est énorme, ou une autre sur les superdividendes à près de 5 milliards d'euros. Inversement, la droite, elle, a réussi à obtenir les défiscalisations totales des heures sup et des pourboires pour les métiers de la restauration. Je ne vois pas qui peut voter ce texte, à vous le rapporteur général. Voilà. En gros, chaque camp a donné une couleur finalement à ce texte, c'est assez simple, hein, une couleur fiscale. Mais certains disent que chaque camp a fait son travail, c'est bien d'ailleurs, hein, un travail parlementaire extrêmement intéressant, ça a bossé à l'Assemblée, hein, ça a bossé. Mais il n'y aura pas forcément de majorité pour voter ce texte. Hein, je pense que vous comprenez l'histoire. Le scénario, du coup, d'un passage du budget par le biais des ordonnances n'est pas non plus à écarter. Ah non, il y avait une hypothèse avant, c'est voilà, après, donc c'est la loi spéciale. Donc qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a pas une majorité pour voter ce texte avant de se projeter? Après, il y aura la CMP, la commission mixte paritaire, voilà, avec un nombre de... On dit paritaire parce que c'est un nombre égal de députés et de sénateurs qui se réunissent pour dire bon, voilà ce qu'on fait. Voilà, voire une loi spéciale. À la fin, je ne me fais pas de soucis, la France aura un budget. Il y a aussi le scénario des ordonnances. Hein? Car si le gouvernement jure de ne pas vouloir y avoir recours, il pourrait ne pas avoir le choix. Rappelons que ce gouvernement a promis de ne pas utiliser le 49-3, de ne pas faire passer en force ce texte par le 49-3. Le Cornu s'y est engagé. Mais il reste les ordonnances, qui est une autre façon de faire passer un peu en force le texte. Au vu de la lenteur des débats, il y a de réelles chances que le texte ne puisse être adopté ou retoqué dans le délai de 70 jours qui est autorisé par la Constitution. Et dans ce cas-là, le président de la République et le Premier ministre seraient autorisés à faire passer les différentes mesures contenues dans le texte budgétaire par le biais des ordonnances. Et donc sans l'aval, sans l'autorisation du Parlement. Voilà. L'autre solution serait donc une loi spéciale. Ça, je ne suis pas trop au courant. Merci Fabricadon pour le raid. Comme l'an dernier, lorsque le gouvernement Barnier avait été renversé. Voilà. Il y a une députée RN qui vote, qui estime que ce sera sans doute des ordonnances, au vu du temps que prennent les débats. Ce serait dommage, parce que du coup, il y a eu des débats assez passionnants à l'Assemblée. Voilà, et vraiment, les députés ont bossé. Mais au final, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est pour ça que moi, je ne me penche pas sur tous les amendements qui ont été votés, parce que je vous dis, ouais, mais le problème, c'est que ces amendements, ils sont votés à l'Assemblée, ça ne veut absolument pas dire qu'ils vont se retrouver dans le texte final. Il y a des trucs... C'est pour ça que je n'ai pas fait le détail, notamment, de toutes les propositions fiscales, parce qu'il y a de fortes chances qu'elles ne soient pas retenues au final. C'est ce qu'on est en train de comprendre ce matin. Alors les ordonnances, c'est bien beau de faire passer un texte en force, mais c'est encadré quand même, hein. En cas de recours aux ordonnances, le gouvernement serait censurable par les députés, d'autant que ce serait très probablement le texte tel qu'il a été lorsqu'il a été déposé par le gouvernement, et pas celui modifié par le Parlement. Bah après, ça se trouve, ils vont dégainer le 49-3. Hein. Mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir ce matin. Débat riche et passionnant à l'Assemblée, mais des délais, mais des délais contraints. Et si à un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas une majorité pour voter ce budget, bah, il faudra bien que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse passer un texte. La question, c'est quel texte? C'est quel texte? Voilà. Bon, on suit ce feuilleton. Des questions, les beaux gosses? Où tout est compris? Il me semble qu'il avait dit qu'il n'utiliserait plus le 49-3. Oui, Canardo, il l'a promis. Il a dit à Macron, il a même dit à Macron, moi je veux bien créer un Le Cornu 2, je veux bien retenter l'aventure, mais je veux pouvoir promettre aux députés qu'il n'y aura pas de 49-3, qu'on va laisser les députés travailler. Si ça passe en ordonnance, il n'y aura pas le 49-3, mais les députés auront travaillé un petit peu pour rien. Par ordonnance, ça reste le texte décidé par l'Assemblée, ça reste ok démocratiquement. J'ai l'impression que le Figaro dit l'inverse. La papaya. Et la papaya, j'ai la ref. Le gouvernement pense que ce serait plutôt le texte du gouvernement par ordonnance. À suivre. À suivre donc, voilà. Mais comme ça, vous avez les derniers éléments. Comme ça, quand on va revenir sur le sujet, vous ne serez pas complètement surpris, quoi. Il a dit, voilà, j'ai la ref aussi, Indicuche. J'adore cette ref. Alors maintenant, je vous emmène en Italie. Voilà. Se pencher un petit peu sur un premier bilan de Giorgia Meloni, qui est la chef du gouvernement, qui est la présidente du Conseil. Hop, c'est parti, on est à une heure. Meloni, alors certains parlent d'un miracle économique et Libération, non, ce matin, préfère parler d'un mirage économique. Évidemment, c'est pas la même chose. Qui a raison? Bon, on va essayer de réfléchir là-dessus. Peut-être un petit point d'interrogation quand même. Voilà. Ok. Ok, et TikTok, vous l'avez aussi, je vous mets la flèche. La flèche. Sur le deuxième sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mirage économique dont nous parle Libération à propos du bilan de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil? Let's go. Giorgia Meloni, le mirage économique. Vantée par la droite et l'extrême droite française pour ses résultats, la présidente du Conseil italien surfe en réalité, estime Libé, sur les réformes de ses prédécesseurs et profite des aides massives de l'Union européenne. Il y a un édito de Paul Quignot dans Libé, bon, qui est assez clair, qui est intitulé « Mensonge ». Giorgia Meloni, ou le miracle économique italien. Cette petite musique s'est imposée depuis quelques mois. Elle a été reprise en boucle ici en France par ceux qui surfent sur l'argument qu'avant de crier au loup en cas d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qu'est-ce qu'on parle d'extrême droite dans l'actualité en ce moment, il faudrait peut-être l'essayer et juger sur pièce. Argument qui, en cette période de bazar XXL autour du budget, de défiance grandissante à l'égard des politiques, séduit une partie de l'électorat. Hein. En mode, ah oui, c'est vrai, on les a pas essayés ceux-là. Hein. Pourquoi pas? C'est vrai, on n'a jamais essayé. Mais s'appuyer sur les résultats économiques de Belloni pour faire croire qu'en plus ça marche, même pas mal, tout va bien, relève du mensonge, selon Libé. Merci le Pinpic. Car de miracle économique transalpin, il n'y a point. Si le déficit budgétaire est mieux maîtrisé qu'en France, à tel point que les agences de notation d'ailleurs sont en train d'améliorer la note de l'Italie alors qu'elles sont en train de détériorer la nôtre. Si le déficit budgétaire y est mieux maîtrisé qu'en France, le poids de la dette y reste plus important et la croissance est tâtonne. La dette italienne est plus importante que la nôtre, proportionnellement. C'est assez vrai. Et la croissance n'est vraiment pas terrible. Pour résumer, le miracle Meloni repose surtout sur le fait qu'elle n'a rien fait, ou pas grand-chose, en tout cas aucune réforme d'envergure. Merci Quinoa. Son talent a été de savoir profiter des réformes de ses prédécesseurs, dont Mario Draghi, et paradoxe savoureux, de l'immense manne financière européenne. Sans l'Europe, l'Italie serait aujourd'hui en récession. Cette Europe honnie de l'extrême droite est donc de Giorgia Meloni, avant qu'elle accède aux responsabilités. Le prétendu miracle économique italien d'extrême droite repose donc sur un reniement du socle idéologique de ladite extrême droite, et non des moindres. Rappelons en passant, alors que le RN se pique de défendre les classes populaires, que la question sociale n'est en aucun cas en haut de la pile des préoccupations de Meloni. D'ailleurs, Marine Le Pen et Meloni ne s'entendent pas très très bien, je crois. En résumé, son seul talent a sans doute plus à voir avec une forme d'habileté politique, mais moi j'ai envie de dire c'est important aussi. Une forme tout au plus de pragmatisme, ça aussi c'est important. Très éloigné d'un quiconque miracle qui validerait des orientations qu'il conviendrait ici aussi de tester. Bon, ça c'est juste un édito, c'est un avis. Maintenant on va se pencher un petit peu sur les faits et sur les chiffres. Que dit Libé ce matin? Ce matin il est midi 26. Hein. Trois ans après son arrivée au pouvoir, la première ministre est encensée à l'étranger par les conservateurs pour la bonne santé économique du pays. Vous l'avez peut-être entendu ça. En Italie ça marche bien, l'économie marche bien en ce moment quoi. Mais les réformes structurelles sont absentes et le PIB est maintenu à flot par l'aide massive de l'Union européenne. Le tact est devenu de son propre camp. Alors que l'entourage de Meloni se délecte depuis quelques semaines de commentaires flatteurs dans la presse internationale sur la stabilité de l'économie italienne, Marine Le Pen a douché la bonne humeur de ses cousins nationalistes italiens. Bon. Si les gouvernements très à droite d'Europe ne peuvent même plus compter sur Marine Le Pen pour être soutenus, où va-t-on? Où va-t-on? Quelque chose qui ne va pas quand même. Hein. Ce monde va à volo quand même. Interrogée sur l'existence d'un modèle Meloni, la présidente du RN a lâché mi-octobre « Je ne minimise pas le travail de Giorgia Meloni, mais enfin avec 240 milliards d'euros de soutien de la part de l'Union européenne, c'est quand même, vous l'admettrez, plus simple de mettre en œuvre un certain nombre d'orientations. » C'est quand même fou ça. Une occasion pour la patronne de l'extrême droite française de s'indigner d'un plan européen financé selon ses calculs par l'argent des Français. Marine Le Pen, elle dit que le miracle économique italien, il est surtout réalisé grâce à l'argent des Français. Cyrilia, j'ai la ref. Cyrilia nous dit, après Marine se finance avec l'Europe aussi. J'ai la ref, mais là, il faut aller du côté de la justice. Début octobre, c'est le patronat italien qui a également ramené Giorgia Meloni à la réalité des chiffres. Cette année, non seulement la croissance restera anémique, plus 0,5% en 2025, alors c'est moins encore qu'en France, mais surtout sans l'aide de l'Europe, cette dynamique du PIB italien serait de moins 0,3%. C'est pas fou. En clair, sans la manne des 194 milliards d'euros dégagés par l'UE à destination de l'Italie pour relancer l'activité après la pandémie de Covid, Rome serait au bord de la récession. La péninsule est en effet le principal bénéficiaire, ça je ne le savais pas, du Next Generation EU pour une somme totale qui, entre prêts et subventions, représente près de 9% du PIB italien. Un montant pas très éloigné. Oui, les séniles, le vieux, le qui, mais les juges aussi, attention. Un montant pas très éloigné des sommes reçues par le pays après-guerre dans le cadre du plan Marshall américain. Vous vous rendez compte? C'est gigantesque. Hein. C'est gigantesque. Voilà. Salut Sarah. À ce stade, 122 milliards ont déjà été versés. Pour Rome, le temps presse, car toute l'enveloppe mise à disposition par l'Europe, par Bruxelles, doit être utilisée avant le 31 août. Voilà. Le gouvernement italien cherche donc par tous les moyens comment utiliser tous ces fonds. Voilà. Et investir notamment dans les infrastructures. Certains s'en félicitent en Italie d'ailleurs. Certains s'en félicitent. il y a un professeur d'économie qui dit, italien, qui dit, on a raté l'opportunité. Ah non, lui, il dit que cet argent n'a pas bien été utilisé. Bon, on a raté l'opportunité d'utiliser cet argent pour faire des réformes structurelles, réduire la bureaucratie, la lenteur de la justice, la pression fiscale, le coût de l'énergie. Le gouvernement Meloni n'a pas fait grand-chose pour favoriser la croissance économique, dit-il. La production industrielle italienne a connu 26 mois consécutifs de baisse. Alors comment comprendre, demande Libé, que la patronne de Fratelli d'Italia, l'artisane du miracle italien selon le journal britannique The Telegraph, soit devenue, donc on parle de Meloni, un peu partout la tête de gondole préférée des ultra-conservateurs. Un modèle de réussite économique ayant refilé le mistigri du pays malade de l'Europe aux voisins français. Comment expliquer que, quand on voit les chiffres, c'est pas si fou, mais que d'après certains partis en Europe et certains médias en Europe, c'est formidable ce que fait Meloni. Ben là, on a un universitaire italien qui dit, tout simplement, ce gouvernement n'a pas fait de grosses bêtises. Concrètement, Meloni, qui avant son arrivée au pouvoir en 2022, prenait la sortie de l'Italie de l'euro, s'est glissé dans les pas de ses prédécesseurs et s'est converti à une certaine rigueur budgétaire. A priori, l'Italie ne veut plus sortir de l'euro. Pas de dérapage, pas d'embardé. Au contraire, elle a mis fin au super bonus, le crédit d'impôt permettant aux propriétaires de rénover leur habitation avec 110% de déduction fiscale. Ça, c'est un truc un peu fou, mais qui a été supprimé. Et est allé chercher au-delà des recommandations de Bruxelles. Cette année, l'Italie devrait ramener son déficit public à 3% du PIB, ce qui est pas mal, et sortir de la procédure européenne pour déficit excessif. Les agences de notation, du coup, ont relevé la note du pays, saluant la stabilité politique. C'est vrai qu'une vraie stabilité politique est assez rare en Italie avec ce gouvernement Meloni qui dure, il faut le reconnaître. Et la discipline budgétaire. Ce qu'il faut reconnaître aussi. Sauf que tout le mérite ne revient pas à Meloni, loin s'en faut, estime Libé. L'essentiel des mesures douloureuses a été prise par les gouvernements précédents, notamment celui de Mario Monti, qui a réformé les retraites en portant l'âge légal de départ à 67 ans. Voilà. La ligne économique du gouvernement actuel serait donc « qui n'agit pas ne se trompe pas ». On ne change rien, comme ça on évite de faire des erreurs. Il n'y aura pas de grandes réformes de fonds actuellement en Italie. Du coup, les perspectives de croissance sont faibles. Le principal problème italien, c'est notamment la chute démographique. On fait de moins en moins d'enfants un peu partout dans le monde, notamment en France, mais en Italie, c'est vraiment très très fort, quoi. Ce qui n'est pas étonnant dans ce contexte que le taux de chômage baisse puisque 80% des entreprises disent avoir du mal à recruter. L'immigration. On attend Meloni sur l'immigration. Bien qu'ayant prévu de concéder 500 000 nouveaux permis de séjour sur les 3 prochaines années, le gouvernement nationaliste refuse d'ouvrir davantage les portes aux immigrés à l'instar de l'Espagne. L'Espagne, ils, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont ouvert assez grandes leurs frontières pour soutenir, dit l'actuel gouvernement espagnol, l'économie espagnole. C'est un espèce de contre-modèle européen en ce moment en Espagne. Quant à la relance par la consommation, elle est compromise par la faible rémunération des travailleurs. Les salaires réels des Italiens sont encore inférieurs de 7,5% par rapport à 2021. Giorgia Meloni refuse obstinément l'introduction du SMIC, comme le réclame la gauche. Le gouvernement italien a également supprimé le revenu de citoyenneté, qui était une sorte de RSA. Voilà. Aujourd'hui, le taux de pauvreté absolu a atteint 9,8% de la population, près de 6 millions d'Italiens. Le gouvernement mène une politique d'austérité en défendant certaines corporations, en faisant des amnisties pour les fraudeurs fiscaux, critique un syndicaliste. La stratégie consiste à accompagner le déclin démographique, industriel, social de l'Italie, en garantissant la rente plutôt que la mobilité sociale. Libé se demande, est-ce qu'il y a vraiment un modèle italien ? Voilà. Je vous lis, les amis. Il y a Moumeux qui dit « Ce qui m'embête avec cet article, c'est que c'est applicable à n'importe quel gouvernement. On a tendance à attribuer les problèmes mais aussi les réussites au gouvernement actuel, quel qu'il soit. Je ne vois pas l'intérêt de l'article si ce n'est par aigreur envers Meloni. » J'entends. Il y en a, je crois que dans Libé ce matin, il y a une page que je vous ai pas lue d'ailleurs sur ça. C'est comment en France. Je peux le parcourir vite fait si vous voulez. Comment en France certains sont fascinés par le modèle italien actuellement. Notamment chez les Républicains. Les figures des Républicains ne tarissent pas d'éloges pour la dirigeante venue de l'extrême droite, malgré des résultats économiques en trompe-l'œil et une politique migratoire mêlant restriction et régularisation. Elle est louée aussi, pas seulement par LR d'ailleurs, hein. Retailleau, Éric Zemmour, Marion Maréchal, Jordan Bardella. Même Édouard Philippe. Édouard Philippe a dit du bien également de Meloni. Laurent Wauquiez récemment aussi a vanté la véritable politique de droite de Meloni. Donc il y a un vrai truc. La droite qui souligne notamment la baisse du déficit public dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, les notes des agences de notation qui s'améliorent. Le fait que Meloni ne veuille plus sortir de l'Union européenne. Le terrain régalien, donc là on parle de la sécurité, de l'immigration aussi. Le terrain régalien sur lequel Meloni a abondamment fait campagne en 2022, elle a été élue notamment sur ces questions, est également une source d'inspiration pour la droite française. Son parti Fratelli d'Italia, ça veut dire quoi Fratelli d'Italia d'ailleurs? Quelqu'un qui parle italien, ça veut dire quoi? Frère d'Italie? Fraternité? Je ne sais pas. Fratelli? Vous l'avez peut-être? Se targue d'une maîtrise des flux migratoires. Frère d'Italie? Ok, merci. Se targue d'une maîtrise des flux migratoires. Quelle est l'action de Meloni sur l'immigration en Italie? Un parti de droite dont la dirigeante a été d'extrême droite. Elle a fait partie des jeunesses mussoliniennes. On l'attend sur l'immigration, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des accords avec des pays tiers, la limitation des actions en ONG, des ONG en Méditerranée, des procédures plus dures sur le droit d'asile, son projet de transfert des migrants dans des camps en Albanie, malgré son invitation par la justice italienne, a inspiré Bruno Retailleau en France. Mais la droite, estime Libé, ne pipe pourtant mot d'un autre versant du modèle Meloni en matière migratoire, bon, on a déjà parlé ici. Près de 450 000 travailleurs étrangers sont arrivés en Italie, un demi-million, entre 2023 et 2025, et un nouveau décret prévoit l'octroi de 500 000 nouveaux visas, d'immigrés donc, d'ici à 2028. Voilà. Une politique qui vise à la régularisation, si je ne dis pas de bêtises, des métiers en tension. C'est-à-dire que Meloni, elle a dit, d'après ce que je comprends, l'immigration, en fait, pour réduire les tensions dans certains secteurs, si. Voilà. Et là, il y a 500 000 nouveaux visas qui sont prévus d'ici à 2028. Pour Marc Lazare, Meloni incarne un mélange d'idéologies très violentes et d'un extraordinaire pragmatisme sur l'économie ou l'immigration. Au rayon idéologie, ces coupes dans les budgets culturels trouvent grâce au sein d'une droite libérale en croisade contre ce secteur. Quant à ses positions les plus radicales, comme son hommage appuyé au trumpiste Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre et érigé depuis en martyr de l'extrême droite, la droite se montre pour l'instant encore étanche. Voilà. Je vous lis. C'est une référence aussi à l'hymne italien, Fratelli. Ok, merci. MMG écrit, on est dans la concrétisation de ce que pas mal de monde dans le business insiste, c'est-à-dire une union de la droite avec l'extrême droite pour garder le contrôle du pouvoir et avoir plus de mainmise sur la politique. Salut, c'est Hunter. Ok, bon, bah à suivre. En tout cas, ce dossier dans Libé est plutôt intéressant. Est-ce qu'on irait pas voir le fantôme de Jeffrey Epstein qui manifestement provoque des cauchemars à Trump? Il y a le Yaourt Nature, je reviens à Mélanie, qui dit « Si la droite extrême s'inspire de l'Italie, c'est parce qu'ils ont gagné et sont au pouvoir, pas pour le programme ou les résultats. » De la même manière que Mélenchon s'inspire du Venezuela. Ce qui l'intéresse, c'est les méthodes pour gagner une élection. C'est intéressant. Il y a même un article sur ça. Oh, Oscar, il y a des articles quasiment tous les jours dans la presse sur le sujet. Tu vas voir, parce qu'en fait, c'est la base MAGA qui est en train de défier Trump, les propres électeurs de Trump qui sont en train de lui demander des comptes sur cette affaire Epstein. Ça vient plus des MAGA, des républicains, que des démocrates. Allez, on est à 1h17, on va mettre 1h18 pour le TC, c'est parti. Oh, j'ai vu que Xerator était en live ce matin, en matinale, tôt. Il a prévu toute une semaine de matinale, j'ai trouvé ça chou. Pourquoi le Miséra, il est en matinale? C'est un pari, c'est quoi? Parce que c'est pas trop ses horaires. Donation goal? Excellent. Je crois que c'est toute une semaine de matinale, hein. Toute une semaine de matinale. C'est quelle heure? C'est 6h? C'est quelle heure? C'est 6h? C'est 6h, 9h? Je vous le mets aussi. Hop. Ici, sur le titre du stream. 6h, 9h? Waouh! Trump, le fantôme Epstein. De quoi s'agit-il? TikTok, je vous mets la petite flèche, comme ça vous savez où on en est également, et on y va. Bah bravo à lui en vrai. C'est cool. Let's go. Alors, plusieurs journaux en ont parlé déjà un petit peu la semaine, puis, et ça enchaîne parce que le truc demeure, quoi. Le fantôme de Jeffrey Epstein, on dit Epstein, comme vous voulez, hante à nouveau la Maison Blanche. Bon, fantôme parce que le gars, il est mort, quoi. La publication de mail, c'est ça qui relance l'affaire, en fait. Laissant entendre, merci le Porco Rosso, merci l'épine pique. Laissant entendre que Trump était au courant des agissements de l'homme d'affaires accusé d'exploitation sexuelle de mineurs, embarrasse le président. Divise son parti, enflamme sa propre base. Merci, t'es sous zéro pour le follow, c'est gentil. Merci pour les stats. Sa propre base, complotiste, un vote est prévu cette semaine à la Chambre des représentants. Vous voyez, donc c'est pas que des discussions sur les réseaux sociaux, puisque l'histoire arrive même devant le Congrès. Dans l'affaire Epstein, Donald Trump est pris à son propre jeu. Après avoir contribué à lancer et amplifier sans vergogne les théories les plus complotistes, dans tous les domaines, le président américain essaie désespérément d'éteindre l'affaire qui anime peut-être avec le plus de ferveur l'essentiel de sa base, MAGA, Make America Great Again. Car derrière Jeffrey Epstein, financier new-yorkais très connecté, accusé d'exploitation sexuelle de mineurs, qui s'est suicidé en prison en 2019, selon la version officielle, c'est toute la version pour les élites américaines qui s'expriment dans les rangs les plus populistes des électeurs républicains, dans le camp donc Trump. Et plus le temps passe, plus l'ancien magnat de l'immobilier, qui a longtemps été un proche d'Epstein, donc ça pour le coup c'est avéré, peine à s'en détacher. Mercredi, alors que la longue paralysie budgétaire des États-Unis touchait à sa fin, l'affaire a de nouveau été relancée par quelques élus démocrates. Membres de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, une enquête a été ouverte sur le sujet. Ils ont publié 3 mails du défunt d'Epstein qui laissent entendre que Trump, malgré ses dénégations, savait à propos des filles que l'homme d'affaires agressait. Il aurait même passé plusieurs heures avec l'une d'elles, sans pour autant que cela n'implique qu'il n'aurait agi de manière répréhensible. C'est ce que disent les mails d'Epstein. La Maison Blanche a immédiatement réagi en dénonçant une supercherie. Donald Trump a fustigé une tentative des démocrates de détourner l'attention de leur piètre gestion de la paralysie budgétaire. Et les membres républicains de la commission de surveillance ont publié des dizaines de milliers d'autres mails censés disculper le président. Mais plutôt que d'éteindre la polémique, c'est là où ça devient intéressant. Ce qui se voulait un énième contre-feu est l'effet inverse. Confirmant l'étendue du réseau politique et financier de Epstein, que ce soit avec des personnalités républicaines ou démocrates, alimentant du même coup la machine complotiste qui veut que ce proxénète ait eu une liste des riches clients qui tiendraient les rênes du pays et qui composeraient le fameux État profond honni par l'alt-right et les trumpistes et essaieraient de dissimuler leur implication aux citoyens américains lambda. Selon cette théorie, plusieurs fois démentie, Jeffrey Epstein ne se serait pas suicidé, mais il aurait été assassiné avant que son procès ne se tienne pour éviter des révélations embarrassantes. Aujourd'hui, parmi ceux qui disent que Epstein s'est bien suicidé et n'a pas été assassiné, il y a notamment la Maison Blanche, il y a notamment Trump, qui disent l'affaire est close, il n'a pas été assassiné, il s'est suicidé, point. Fin de la polémique. Cette fameuse liste, le candidat Trump s'était engagé à la rendre publique s'il était élu en 2024, lui qui avait même alimenté les suspensions sur la mort d'Epstein. Il laissait alors entendre que l'ancien président démocrate Bill Clinton, qui lui aussi avait fréquenté le personnage, pouvait avoir commandité son assassinat. Mais ça, c'était avant la campagne. Depuis son retour à la Maison-Blanche, son administration a continué d'entretenir le flou. Sa secrétaire à la justice allant jusqu'à affirmer au mois de février avoir la liste, la fameuse liste, sur son bureau. Mais début juillet, patatras, un mémorandum du ministère de la Justice et du FBI arrive à la même conclusion que l'administration précédente. Jeffrey Epstein s'est bien suicidé, la liste n'existe pas et aucune publication supplémentaire ne serait ni appropriée ni justifiée. Pour résumer, Trump avant l'élection, c'est le mec a sans doute été assassiné, assassinat sans doute commandité par Clinton. Voilà, je vais vous révéler la liste parce que il y a des dingueries dedans. La liste, elle est sur le bureau. Et puis après l'élection, c'est en fait non, 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 on s'est trompé. Il n'a pas été assassiné. La liste n'existe pas. Et du coup, je ne peux pas la publier. Bon, il y a eu un petit changement de tonalité. Les partisans du président, du coup, n'en reviennent pas. Plutôt que de croire leur gourou, comme c'est souvent le cas, Trump devient une partie du problème. S'il refuse de dévoiler l'intégralité des documents liés à l'affaire Epstein, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Pense ses propres soutiens aujourd'hui. Depuis juillet, Trump ne semble plus savoir comment rebondir. Soit il essaie d'enterrer l'affaire, les gens parlent encore de ce type, c'est incroyable, dit-il. Soit il ajoute une nouvelle couche de complotisme en affirmant qu'elle a été montée de toutes pièces par l'ancien directeur du FBI. Voilà. Et par Joe Biden. Et Barack Obama. Ouais. On est passé de la liste existe, elle est sur mon bureau, à en fait, elle a été créée par les démocrates. Mais, comme souvent dans les théories du complot, toute tentative de dénégation ne fait qu'accroître l'impression de culpabilité. Sénateurs et représentants républicains se sont retrouvés assaillis de demandes d'électeurs furieux les appelant à rendre le dossier Epstein public, comme l'avait promis Trump avant l'élection. C'est d'ailleurs ce qui va les conduire début septembre, en septembre dernier, à ouvrir une enquête. Il y a une enquête qui est ouverte au sein de la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Voilà. Les instigateurs républicains espéraient jouer la transparence, faire baisser la pression sur leur camp et sur Trump, et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Avant même la publication des mails qui reviennent de relancer l'affaire, l'instance à majorité républicaine avait déjà, malgré elle, multiplié les révélations fracassantes sur les liens passés entre Trump et Epstein. C'est ainsi que furent publiés par exemple un dessin et une note à connotation sexuelle portant la signature de Trump, ouais, qui aurait été retrouvée dans un livre réalisé pour les 50 ans d'Epstein. À force de voir leur adversaire pédaler dans la semoule, les démocrates ont décidé de renchérir, voilà, et une pétition a été lancée pour réclamer un vote à la Chambre des représentants qui assignerait le département de la justice à divulguer tous les documents liés à l'affaire Epstein. Ouais. Les signatures ont été obtenues, ouais, donc... Donc la pétition est lancée, voilà, les signatures ont été obtenues, on va voir ce qui va se passer maintenant. Un vote, il doit y avoir un vote cette semaine, voilà, sur le sujet. Il y a pas mal ce feuilleton en vrai. C'est là que l'affaire pointe toutes les contradictions de Donald Trump, écrit ce matin Libé. L'écart entre ses promesses de campagne, résolument populistes, et sa politique réelle. Ses électeurs qui voyaient en lui le champion des oubliés et des déclassés semble finalement se rendre compte qu'il reste le milliardaire qu'il a toujours été. Il déçoit avec sa grande et belle loi budgétaire qui privilégie les réductions d'impôts pour les plus riches, en supprimant l'assurance santé des plus démunis. Merci beaucoup, Erkswan. Ou encore avec ses entorses à l'isolationnisme lorsqu'il bombarde l'Iran ou menace le Venezuela. Nombreux sont les partisans de Trump qui estiment que le gouvernement est corrompu, ne défend pas les intérêts des Américains ordinaires, analyse un représentant démocrate. L'une des raisons pour lesquelles ils ont soutenu Trump malgré ses imperfections est qu'il avait promis de tout révéler, de tout démolir, de s'attaquer à cette élite corrompue qui a trahi et qui a anéanti le rêve américain. Pour eux, la publication des Epstein Files était au cœur de la promesse de Trump. Il ne s'agissait pas d'une question secondaire ou accessoire. Son thème central était que l'élite américaine, corrompue, avait trahi les Américains oubliés. Trump a tenté une nouvelle contre-attaque vendredi en réclamant l'ouverture d'une enquête fédérale contre plusieurs personnalités démocrates dont les noms apparaissent dans les mails, Clinton, Larry Summers, Red Hoffman. Mais cela n'empêchera pas, il y a Eckhart Prune qui dit que ça ferait une bonne série, ça ferait une très bonne série. Mais cela n'empêchera pas le vote à la Chambre des représentants, cette semaine donc, je pense qu'on va en reparler. Voilà. Qui ne compte pas tant que pour ce qu'il implique comme conséquence, puisque la procédure pourrait être ensuite bloquée par le Sénat, mais pour ce qu'il représente, bon, de toute façon, la liste, on ne va jamais la voir. Hein. L'enjeu pour les démocrates n'est pas tant de dévoiler les documents, la plupart sont déjà publics, il est peu probable que les autres recèlent des révélations fracassantes. L'enjeu est de garder cette affaire au premier plan, d'entretenir cette tension entre la base trumpiste qui se sent de plus en plus trahie et une majorité républicaine incapable d'inverser la tendance. L'enjeu, c'est que le monstre du complotisme dévore celui qui l'a rendu si puissant. Pas inintéressant. Je vous lis. Alors, c'est vrai que les dernières infos, et certains me le disent dans le chat, c'est que Trump aurait changé d'avis et voudrait aujourd'hui que soit publié le dossier Epstein. Donc d'un premier temps, il voulait, en même temps, il ne voulait pas, et là, il revoudrait. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler l'augmentation de la fortune de Trump depuis qu'il est président? De mémoire, c'est énorme. J'ai pas l'article ce matin là-dessus, Astia La Vista, mais j'en ai lu ces derniers jours, et c'est vrai que ça va bien. Ça va bien. Notamment avec les crypto-monnaies. Ouais. À suivre. Salut Sophie. Il n'est pas bête, il investit dans ce qu'il peut faire bouger. Oui, c'est un petit peu ça l'histoire Spiceball. Ça fait longtemps que je ne veux pas voir les news pour ne pas être énervé. Je comprends ma vie, ça. Parfois, l'actualité, c'est un peu anxiogène. Allez, je vous emmène sur... Hop, je retrouve... Là, ça, c'était Mélanie, ça, c'était Trump. Et maintenant, je vous emmène sur... Ah ! Là, on revient en France. Alors, moi, je trouve ces deux papiers passionnants sur la polarisation de plus en plus forte des opinions politiques en France, voilà, notamment avec les blocs RN et LFI, mais pas seulement. Les conséquences que ça a, les responsabilités dans tout ça, où ça nous emmène, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et l'amplification de tout ça par les réseaux sociaux et le rôle des réseaux sociaux et des médias dans cette polarisation des opinions. Voilà, j'ai deux articles de fond là-dessus ce matin parce que ce qu'on essaie de faire aussi... C'est de... Oui, un petit essai, on est à 1h31. Je vous mets ça. Et après, je vais me faire un petit expresso parce que la nuit a été courte. 1h31. Je vais me relancer un petit peu. 1h31. Démocratie, le danger des réseaux sociaux. Je vais appeler ça comme ça. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est ok. Je vous le mets aussi dans le titre du stream carrément. Hop. On est pas mal. Et TikTok, vous avez le droit à la flèche. Et Samuel, il a le droit à un expresso. N'hésitez pas à vous en faire un vous aussi. C'est mondial cette polarisation par parenthèse au Portugal en ce moment, par exemple. C'est, ouais, il n'est pas impossible, ouais. Bah, aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, par exemple, hein, il y a une polarisation très forte aussi des opinions. Avec des gens qui veulent se parler de moins en moins. Démocratie, voilà, on y est, on est là. Voilà. Vous me laissez littéralement 30 secondes pour me lancer mon expresso? J'en ai pour 30 secondes. On a fait plus? On a fait plus ou pas? Ça fait plus de 30 secondes ou pas? Ça va à mon âge, hein? Est-ce qu'on doit parler d'âge? Est-ce qu'on doit parler de sénilité? J'ai pas fait la flèche? Oui, j'ai pas fait la flèche. Démocratie, danger des réseaux sociaux. Ok. Hein? C'est parti. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça passionnant. Pour moi, c'est cet article-là, celui qui suit aussi, mais c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant ce matin. Et vous allez voir, ça interpelle plein 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 de sujets qu'on évoque tous les jours dans l'actu. Chloé Morin, donc je ne la connais pas très bien. Elle est présentée par L'Opinion comme une essayiste. Je vous avez des infos sur Chloé Morin. Je sais pas si elle a un parcours de philosophe ou de sociologue. J'ai plus ça en tête, mais je pense que certains dans le chat la connaissent peut-être parce que elle est connue. Chloé Morin, elle donne une interview dans L'Opinion où elle dit notamment: la politique est en train de s'aligner sur les logiques des plateformes. Alors plateformes, comprenez réseaux sociaux dans la bouche de Chloé Morin, qui avalent la démocratie. Image, donc la politique qui nous parle pas de fond, mais d'image. Immédiateté, on n'est pas sur la réflexion, sur la projection, mais on est sur l'instant. Le vraisemblable qui supplante le vrai. Donc une détérioration de la manière dont on fait de la politique en France. Voilà. Et une responsabilité des réseaux sociaux là-dedans. Mais pas seulement, hein. Camille me dit, elle est essayiste et directrice dans un cabinet de conseil. Ok. Et dit notamment qu'on lit moins. Moins nous lisons, plus nous devenons manipulables, argue l'essayiste Chloé Morin. Selon elle, le déclin de la lecture. Alors nous, on lit, nous. On adore lire. Donc ça nous fait plaisir, ça. Je dis nous, parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez aussi ça. Hein. Le déclin de la lecture n'est pas une simple mutation culturelle. C'est un symbole politique qui préfigure un effondrement démocratique. Je crois que lire aujourd'hui est un acte de résistance. Il y a Evol dans le chat qui vient de dire MDR, ça ne veut rien dire. On vient de lire une ligne d'un article qui fait une pleine page, qui est lui-même un résumé de la pensée de Chloé Morin, voilà, qui dénonce le fait que les gens ne lisent pas assez, ne réfléchissent pas assez, réagissent trop vite dans l'émotion. en ne prenant pas assez le temps. Et littéralement, quelqu'un vient de dire, au bout de quelques mots, MDR, ça ne veut rien dire. Tu es exactement ce que décrit Chloé Morin. Félicitations, merci pour la démonstration. Je crois qu'on peut arrêter de lire l'article, puisque on vient de démontrer ce qu'on voulait montrer ce matin. Merci beaucoup, tu viens de me faire gagner 10 minutes. Vous êtes des princes, hein. Vous êtes des princes. On continue. Alors, question de l'opinion. Dans votre essai Désaligné, qui est un nouveau livre qu'il vient d'écrire, je crois, né de votre expérience personnelle de désalignement du monde, vous analysez et alertez sur le grand basculement symbolique sociétal qui se produit sous nos yeux à bas bruit. Comment le caractérisiez-vous ? Ce basculement symbolique me paraît infiniment plus important que le grand remplacement dont on parle si souvent. Merci UVC01. Il conduira à l'effondrement de nos démocraties assez rapidement. Ce basculement symbolique, selon Chloé Morin, peut conduire à l'effondrement de nos démocraties, pas moins. C'est un changement de logiciel en cours ici, pratiquement achevé déjà aux États-Unis. On parlait tout à l'heure de la polarisation des opinions aux États-Unis. Nous vivons encore avec les mots et les réflexes du monde d'avant, celui du débat, du collectif, du temps long, de la nuance, de la complexité, alors que la réalité a muté vers une logique d'attention fragmentée, d'informations saturées et de rythme effréné. Et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au quotidien donne raison à ce que Chloé Morin est en train d'écrire. Le désalignement que je décris, c'est le décalage entre la manière dont certains d'entre nous, ceux qui n'ont pas encore cédé à la logique qui polarise tout, et si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas encore cédé à cette logique, s'efforcent encore de penser le monde et la manière dont il fonctionne désormais. Être désaligné, c'est résister. Question de l'opinion. À l'origine de ce grand basculement, il y a, dites-vous, les plateformes. En fait, quand elle dit plateforme, elle pense réseaux sociaux. En quoi modifie-t-elle fondamentalement ces plateformes notre rapport aux autres, au point même de détruire tout commun, le global? Les plateformes sont en train de remplacer les lieux de parole et de rencontre par des marchés de visibilité. Elles démonétisent le langage, le désarime du réel. Elles ne récompensent plus la nuance ou la réflexion, mais la réaction émotionnelle immédiate. Elle transforme tout lien en transaction émotionnelle. Un like, une indignation, un buzz. Or, quand chaque individu devient une marque, quand chacun est obligé de commercialiser son intimité, ses vacances, ses peines, jusqu'au décès de ses proches, pour être accepté par le groupe, la possibilité même d'une communication se dissout. Il ne reste plus que des tribus auxquelles on se rattache par notre identité plutôt que nos valeurs. Nous nous habituons à vivre côte à côte dans des bulles calibrées pour flatter nos biais et invisibiliser la part de nous-mêmes qui n'est pas vendable aux yeux des réseaux sociaux. On croit dialoguer, mais en réalité, on performe le lien. Par ailleurs, les plateformes définissent de plus en plus l'architecture du visible, ce qui apparaît, ce qui disparaît. Le modèle optimise l'affect partageable, mais pas la compréhension. Nous sommes synchronisés dans l'émotion, mais de plus en plus désynchronisés dans le sens que nous donnons aux faits et événements. Le commun ne meurt pas du désaccord, il meurt d'un langage qui n'est plus partagé et d'une réalité commune dissoute par la saturation informationnelle. Question de l'opinion. Ce grand basculement se traduit au premier chef, au niveau individuel, par une perte de souveraineté cognitive. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Un élément fondamental en démocratie, que les plateformes nous volent en silence, c'est la capacité d'un individu à préserver la maîtrise de son intention, de son jugement, de sa perception du réel dans un environnement saturé d'informations, d'injonctions émotionnelles, de manipulations narratives. Aujourd'hui, cette souveraineté nous échappe. Nos émotions sont captées, nos opinions anticipées, nos désirs orientés. Nous ne réfléchissons plus, nous réagissons. Sophie dit les réseaux sont aussi une ouverture à la culture et à la découverte. Carrément. C'est là où je mettrai un bémol à ce que dit Chloé Morin. C'est que tout dépend de la manière dont tu utilises ces réseaux. Sauf que les réseaux, à cette utilisation, on va dire, vertueuse des réseaux, nous opposent des algorithmes qui, hélas, parfois nous empêchent de les utiliser au mieux. Sophie, je pense que tu seras d'accord avec ça. Retrouver cette souveraineté, c'est redevenir capable de lire lentement, d'écouter, de douter, de réfléchir sans chercher la performance, les likes. Hein ? La démocratie ne tiendra que si nous retrouvons un droit à l'intervalle entre voir, comprendre et trancher. L'Opinion dit à Chloé Morin, vous voyez d'ailleurs dans le déclin de la lecture un symptôme de cette dépossession de l'individu par lui-même. Renoncer à lire pour passer davantage de temps à scroller est une forme d'aliénation librement consentie, car lire, c'est accepter l'inconfort du doute, la lenteur de la pensée, la complexité du réel et la confrontation à d'autres vies et opinions sans chercher immédiatement à disqualifier. Bon, en même temps, c'est quelqu'un qui sort un livre qui le dit, donc c'est assez cohérent. Lire de la fiction développe également notre empathie, faculté essentielle pour tisser des liens en société. Dans toutes les sociétés où la lecture recule, la décision se dissout dans la réaction et la mémoire commune s'effiloche. Je suis d'accord, Foie Jaune. Je trouve qu'il y a des raccourcis. Foie Jaune dit, elle fait la confusion entre déclin du livre et déclin de lecture grand classique. Je suis assez d'accord. Enfin, moins nous lisons, plus nous devenons manipulables. Le déclin de lecture n'est donc pas une simple mutation culturelle, c'est un symptôme politique qui préfigure un effondrement démocratique. Je crois que lire aujourd'hui est un acte de résistance. Moi, je pense que Chloé Morin, elle grossit un peu sa pensée pour nous la faire comprendre. Mais il y a des choses intéressantes. Question de l'opinion. Ce grand basculement reconfigure également le champ du politique. Quelles sont les nouvelles règles du jeu en la matière ? La politique est en train de s'aligner sur les logiques des plateformes. Et ça, je crois que c'est vrai. La politique est en train de s'aligner sur les logiques des plateformes. Immédiateté. Et là, les médias ont une responsabilité. Hein. Et les hommes et les femmes politiques aussi. D'ailleurs, le tort, il est partagé. Immédiateté. Émotion. Image vraisemblable qui supplante le vrai. Le débat public n'est plus un espace de délibération, c'est un ring d'expression performative. Certains l'ont très bien compris d'ailleurs, et utilisent très bien les réseaux sociaux pour faire passer un message, affirmer des idées. Qu'importe si ces informations sont vraies, du moment qu'elles sont vraisemblable, c'est moi qui l'ajoute ça, parce que l'important est de convaincre son camp, sa communauté, voilà. Semer le doute et créer les conditions d'une activité qui se poursuive. Celui qui gagne n'est jamais celui qui pense juste, mais celui qui capte le plus d'attention. Nous sommes en train de basculer dans la mise en scène et la surchauffe. La conséquence, c'est que la politique perd son rôle de boussole collective, elle ne fait que suivre les humeurs de la foule et les courbes de popularité, comme on suivrait une météo émotionnelle. À terme, et ce peut-être dès 2027, ce sont tous les politiques qui revendiquent la nuance, la modération, l'attachement à la science, à la délibération, qui risquent de disparaître au profit de performeurs et d'influenceurs. Vous allez voir qu'un jour, en France, un créateur de contenu, un influenceur, va être élu à la présidentielle. C'est ça qui va se passer. Vous verrez qu'un jour, il y a un gars qui, sur Twitch et TikTok, YouTube, Instagram et que sais-je encore, va lancer une campagne présidentielle à 6 mois de l'élection, et qui, jouant sur l'émotion, jouant sur les images, jouant sur le vraisemblable, jouant sur les mots plutôt que les idées, va être élu et va passer son quinquennat à jouer à des FPS en live depuis le bureau de l'Elysée. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Votre essai, dit l'opinion, ne dresse pas seulement un constat du monde qui vient, vous proposez de réinventer un destin commun en misant sur les valeurs portées par les femmes. Quel rôle peuvent-elles jouer dans cette reconstruction ? Lorsque je parle de protéger l'empathie de la guerre que les réactionnaires lui mènent, je ne propose pas de protéger une capacité féminine à l'empathie. C'est la norme sociale dominante qui trop souvent attribue encore l'empathie, le soin, l'attention aux autres, aux femmes. Alors que Chloé Morin dit, elle a raison, ça ne devrait pas être réservé à un genre, quoi. Dans le même temps, nous avons encore trop tendance à confondre autorité et brutalité, douceur et faiblesse. La douceur n'est pas la faiblesse. Je pense que ces normes sociales doivent être interrogées. On trouve dans la pensée féministe des concepts permettant de réinventer le leadership et de réintroduire dans la vie publique une autre grammaire du lien, une autre ingénierie du commun, la tension, la complexité, la réciprocité, l'empathie. Ce n'est pas parce que les femmes seraient meilleures qu'elles ont su valoriser ces codes sociaux, mais parce qu'elles ont dû apprendre souvent à composer avec la vulnérabilité, le doute et la honte. dans un monde saturé de certitudes bruyantes, ces qualités deviennent révolutionnaires. Ce que j'appelle un féminisme de la réconciliation, c'est la volonté de reconstruire sans humilier et d'émanciper sans exclure, de ne jamais renoncer à l'exigence d'égalité entre hommes et femmes, mais plutôt que de chercher à inverser les rapports de domination, avoir pour objectif de rendre toute domination impossible. Considérant que je suis là, c'est son premier message, je me dis « Salut, on m'a dit que tu étais d'extrême droite, Samuel, est-ce que c'est vrai ?» Oui. Je suis d'extrême droite pour ceux qui, justement, sur les réseaux sociaux, m'accusent d'accepter de discuter avec les électeurs du RN. Oui. Je suis un farouche opposant de l'extrême droite pour ceux qui savent que je n'ai aucune sympathie pour les idées ou les projets portés par ce parti. Je suis les deux. Je suis doublement coupable. Voilà. Je suis à la fois pour et contre. Voilà. Je suis surtout pour la réconciliation nationale, qui est une autre forme de RN. Voilà. Selon les uns, selon les autres, je suis aussi macroniste. Et je suis en même temps un dangereux gauchiste. Je suis tout ça. Et je l'assume. Voilà, ce qui va me permettre d'être élu en 2027. Là, en ce moment, je suis plutôt, si on en croit les réseaux, je suis surtout un honteux opposant au RN. Mais vous verrez que dans quelques jours, peut-être dès demain, je serai exactement l'inverse. Voilà. Mark my words. Demain ou après-demain. Vous verrez. Question de l'opinion. Est-ce que cet espoir ne se heurte pas au retour d'un masculinisme de combat, notamment aux États-Unis, c'est le phénomène incel notamment. Hein. Au contraire, c'est un féminisme qui permet d'anticiper, peut-être éviter le backlash masculiniste qui fleurit déjà outre-Atlantique et se nourrit de la peur engendrée par le féminisme performatif. Plus une société se fragilise symboliquement, plus elle revoit ressurgir des masculinités défensives. Le masculinisme n'est pas un simple mouvement d'hommes en colère. Voilà. On le voit à l'œuvre en France également, le masculinisme actuellement sur certains sujets. Hein. C'est une réaction identitaire face à la perte de sens et de statut. Et je crois que le pire serait de répondre à cette crispation par une crispation inverse. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je crois que le pire serait de répondre à cette crispation par une crispation inverse. Le féminisme du 21e siècle doit être fort, mais non punitif. Il doit guérir, pas dominer. Sinon, il deviendrait le miroir du problème qu'il voulait résoudre. Le masculinisme prospère sur l'humiliation et la désorientation. Il répond par un marché de la morale, c'est l'alimenter. Il faut accueillir le trouble sans l'assigner à la revanche. Chloé Morin, je ne la connais pas. En lisant l'article ce matin, je suis allé la follow sur X. Je me suis rendu compte que tu ne pouvais pas la suivre comme ça. D'ailleurs, il fallait qu'elle le valide parce que je pense qu'elle doit recevoir, en tant que femme essayiste, elle doit recevoir beaucoup de messages très sympathiques. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas accès à son compte Twitter, mais je suis allé la suivre du coup. Dernière question. Ce masculinisme de combat a-t-il déjà franchi l'Atlantique, notamment au niveau politique ? Est-ce qu'il est déjà arrivé en France ou pas ? Oui, de manière diffuse, dit-elle. On voit émerger une rhétorique de revanche masculine, souvent travestie en discours sur la liberté virile, le refus du poétiquement correct. Des discours aussi qu'on entend. Ah, mais parce que c'est une femme, donc vous la croyez. Mais en réalité, cette posture, c'est moi qui rajoute. Mais en réalité, cette posture traduit une peur masculine de la fragilité. C'est pour cela qu'il faut proposer une alternative. Ni domination, ni repentance, mais une nouvelle manière d'habiter la relation entre les sexes, où chacun retrouve sa place sans que l'autre disparaisse. Il est pas mal cet article. Je ne connaissais pas trop Chloé Morin. J'avoue que je trouve ça assez pertinent. Je vous lis. Moi, ce qui me plaît là-dedans, et encore, mais ça peut être, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, c'est que tout combat, aussi justifié soit-il, combat politique, sociétal, militant, tout combat, aussi justifié soit-il, autant il peut avoir raison sur le fond, si dans son expression, ce combat est violent, agressif, Certains sont persuadés que pour faire avancer les idées, il faut être dans une forme de radicalité, en fait. Voilà. Qui va jusqu'à nier la parole de ceux qui ne pensent pas comme toi. Qui va jusqu'à dire, mais je ne veux pas discuter avec toi parce que tu ne penses pas comme moi. Qui va jusqu'à dire, je nie ta parole et je nie quelque part ton existence parce qu'en fait, tu as tort. Moi, j'entends ce discours parce qu'il y a des gens qui pensent que parfois, pour faire bouger les choses, il faut être radical. Le problème de ça, le problème de cette position-là, que je peux comprendre intellectuellement, c'est qu'en fait, elle va cristalliser la pensée inverse. C'est-à-dire qu'en fait, elle va conduire les gens qui ne sont pas d'accord avec toi à s'arc-bouter sur leur position. Voilà. Et au final, ça crée ce dialogue de sourds que nous avons aujourd'hui en grande partie dans notre société française. Et ça, nous le vivons aujourd'hui. Là. Nous le vivons tous les jours dans ce chat, par exemple. Et c'est ça le sujet. Plutôt que de dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on est OK pour en parler. Ce qui est plutôt ma position, moi. Et en même temps, attention, c'est une mission très difficile. Hein. De French Cock écrit à l'instant dans le chat, ça demande de l'énergie de bien s'informer, de l'ouverture, de découvrir, diversifier, d'accepter, de vérifier. Mais c'est énorme comme travail. C'est pas forcément accessible pour tous. Noyé dans l'information approximative, donc isolé par l'incapacité de tout traiter ou la volonté, on se retrouve avec des versions différentes de la réalité. Je pense qu'aux États-Unis, les républicains sont un exemple extrême de cela, c'est la limite de la nouvelle langue. C'est très juste ce que tu dis. Moulbit nous dit, j'ai lu un article très intéressant ce matin qui disait qu'à force de vouloir combattre le fascisme avec radicalité, on finit par exprimer une certaine forme de radicalité. Il y a Happy Zabou qui dit, ok sur le principe, mais au quotidien c'est épuisant et décourageant. Alors, décourageant non, mais épuisant oui. Il y a Gobi sous algue qui a écrit deux messages dans ce chat depuis qu'il follow cette chaîne il y a une heure. Le premier message c'est vive le RN. Il y a des chaînes sur Twitch où un vive le RN ferait que tu serais bandef. Pas ici en fait. Bon, moi je trouve que cette affirmation n'a aucun intérêt parce que évidemment je pense que tu ne vas convaincre personne. Je sais pas quel âge tu as, mais je pense que tu ne vas convaincre personne de rejoindre le camp RN avec une simple affirmation comme ça qui manque un peu de développement. Vive le RN, pour si quelqu'un vient écrire vive le LFI, je ne pense pas que demain vous allez voter RN ou LFI parce que dans un chat vous aurez lu vive le RN. Voilà. Le deuxième message de Gobi Sousalg, c'est peut-être un breton d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas trop méchant avec lui, c'est Samuel Etienne qui fait de la propagande de désinformation plus près des jeunes. Il n'aurait jamais dû venir sur Twitch. Mais tu as le droit de le dire aussi. Voilà. Tu vois, il n'y a rien dans ce que tu dis qui me va, mais je vois pas de raison de ne pas t'écouter, quoi. Donc, c'est pas insultant, c'est... Déjà, dans ces affirmations un peu radicales, il y a, de M. Gobi Sousalg, il y a presque une volonté de dialogue, parce qu'on n'est pas encore sur l'insulte. Pas encore sur l'insulte, par contre. C'est là la limite. C'est la limite qu'on se met ici, c'est que quand le propos devient insultant, bah, ça dégage, en fait, parce que ça ne crée pas les conditions... d'un dialogue apaisé et constructif, quoi. Alors, ce qui n'est pas le cas sur toutes les chaînes Twitch, encore une fois. Ce qu'on me reproche, d'ailleurs. Il y a des gens, d'ailleurs, qui me reprochent d'accepter de discuter avec les gens qui expriment ce genre d'idées. Mais moi, je l'assume. Vive le gratin dauphinois, ça c'est bon ça. Je vous lis, hein. Pardon, il y a plein de messages très intéressants, je peux pas tous les lire. Petit message de Ragnoc, la commu, vous sentez tous la papa, je vous aime. Vive la raclette, je valide. Je prends un petit peu de temps parce que je trouve le sujet important. Merci Diamiro. Mon café, il est là, il est là, il est presque bu, il est presque bu. Pourquoi lire écouter ce genre de personnes, Samuel? Retiens les bons messages. Mais non, justement, ici, je veux pas que ce soit la chaîne des bénis. Oui, je veux pas que ce soit la chaîne des bisounours. Je veux qu'on puisse, quelle que soit sa sensibilité, pouvoir s'exprimer de. Donc c'est. Tu sais, c'est presque un message sur deux, donc je veux pas les. En fait, ignorer ces messages-là, ça n'aurait pas de sens. Quand tu viens sur un réseau social ou une plateforme, quelque Twitch ou TikTok, c'est pour échanger, écouter, lire les gens. Pas juste lire les messages qui vont dans ton sens. C'est de ça dont on manque, je pense, en France. C'est marrant parce que quand je dis radicalité, il y a plein de gens qui ont traduit LFI, c'est un mot que j'ai jamais prononcé. C'est drôle. C'est drôle, pourquoi vous êtes parti là-dessus? C'est marrant. J'ai jamais dit LFI. C'est amusant. C'est fou ça. C'est vraiment tellement présent dans notre cerveau actuellement que tout de suite, hop. Ok. Bravo Samuel, t'as beau m'énerver parce que tu es lent sur Valo, mais j'aime ton cerveau. J'essaie de progresser sur Valo, hein, j'essaye. J'aimerais bien faire hein, sous ce qu'a fait Inox là. Merci Evol pour ton message. J'aime bien ce qu'a fait Inox là. C'est pas une semaine. Il a pas fait une semaine sur LOL là. Oh, j'aimerais bien faire ça en vrai. Sur Valo. Non, pas l'Everest, non, pas l'Everest. Une semaine. Pour passer quoi? Pour passer gold, tu vois? De silver à gold. Oui, zéro progression, mais bah, moi je ferais pareil. Je ferais silver to silver ou silver to bronze. Il a fail. Oui, mais vous le savez très bien. L'important, c'est pas la destination, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Donc moi, ça me ferait marrer de faire une semaine de Valo, là. Après, il faut que familialement, j'organise ça, quoi. Samuel, t'as plus de chances de devenir président que de passer Gold sur Valo. Force à lui, d'ailleurs, il a pris un giga coup de pied. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, ouais. L'important n'est pas l'arrivée, mais la quête, exactement. Exactement. Captain Barca, bon tant pis. J'ai raté un de tes messages, Captain Barca? Fais voir. Ah bah non, c'était Captain Barca, c'était une erreur de ma part. Je voulais pas du tout faire une comparaison entre RN et LFI. Pardon. Ça vous plairait une petite semaine dans la cave pour essayer de passer Gold? Sur Valo, ça pourrait être marrant ou pas? Non-stop, quoi, avec juste un peu de sommeil entre. Ce serait marrant, non? Une semaine. Une semaine full de Valo. Silver to gold. Hein? Tendu ce chat, au lieu de défendre des opinions, les votants RN ne font qu'attaquer d'autres camps. C'est pas ce chat qui est tendu, c'est la France d'aujourd'hui. Et ce chat n'en est que le reflet. Dans la rue, dans votre famille, chez vos amis. Ah, je reçois un message intéressant. Je reçois un mail à l'instant là. Alors, bon, moi je suis habitué, je suis vieux, je suis sénile, du coup j'ai le cuir un petit peu tanné. Donc là, je reçois un mail à 13h23. Je l'ouvre en même temps que je. Il est là. Espèce de gauchiste bobo. Voilà. Gauchiste au pluriel, parce que je vaux plusieurs personnes. Espèce de gauchiste bobo à l'abri des réalités des Français déconnectés de la vraie France. Tu as quoi comme légitimité pour parler du RN? Le gauchisme est vraiment une maladie mentale. Il n'y a pas de ponctuation, parce que la ponctuation, il n'y a plus. Je vais te dire, je méprise les personnes comme toi. Si tu vivais avec le minimum et dans des quartiers, t'auras un autre discours, alors contente-toi de faire ton blabla d'émission bidon, t'occupe pas du reste, espèce de suceur de babouche de mola. Ça, c'est le dernier mail. Voilà. Des messages comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines, parfois des centaines, par jour. Voilà. Mais à un moment, on s'habitue. C'est-à-dire que pour faire ce petit travail que je fais le matin sur Twitch modeste, là, il faut s'habituer à ça. Et là, je vous le lis. Voilà, je l'ai ouvert, j'ai vu que ça commençait très très bien, espèce de gauchiste, je me suis dit, ça peut être marrant. Et j'en reçois comme ça des dizaines tous les jours. Voilà. C'est juste à refléter, ça reflète juste l'état de notre pays, quoi, aujourd'hui. Et c'est, je pense qu'il faut travailler un petit peu là-dessus, quoi. Voilà. Ah bah, il y a Audely qui dit c'est triste de s'habituer à ça. En fait, je suis obligé de m'habituer à ça. Et en fait, sinon, j'arrête, en fait. Autant, je vous cache pas qu'il y a des jours plus durs que d'autres. Tu vois, je sais pas, ce week-end, ça a été particulièrement animé. Tu vois, quand tu lis un peu les DM, les mails, les messages sur les réseaux sociaux. Celui-ci, il est soft, hein. Celui-ci, il est soft. Hein. C'est un message soft, ça. Il y a des jours où je me dis... tu vois, est-ce que ça vaut le coup, quoi ? Ah, et puis, après, je me dis que tout le monde ne pense pas comme ça. Mais le problème, c'est que notre société fonctionne de plus en plus comme ça, quoi. Et ça, c'est juste un petit exemple, et celui-là, il est très soft, quoi. Effectivement, là, on a une augmentation des tensions dans notre société, mais de toutes parts, hein, sur tous les sujets. Ça va, moi, je suis habitué. C'est signé ? Ouais, il y a un nom. Tu vois, je pense que la personne, je l'appelle un plus. Oui, il y a un prénom et un nom de famille. Enfin, le nom du mail, en fait. Je pense que c'est même pas un pseudo. C'est pour ça que je ne vous le lis pas, d'ailleurs, parce que je n'ai absolument pas envie que les gens s'en prennent à cette personne, à ce monsieur. Tant qu'il n'y a pas de menace physique, tu vois. De temps en temps, il y a une petite menace physique. Le jour où on en vient là, des menaces physiques sur... Du coup, je reçois des messages. Je pense que les gens m'envoient actuellement depuis les chats là, qui ont trouvé mon email. Je reçois deux messages à l'instant. Monseigneur, sachez que votre cuir chevelu est d'une grande beauté et que votre menton ne fait que ravir le chat. Sachez très cher que vous êtes bon dans votre qualité d'homme impartial. Ou encore, espèce d'amour de cœur, on t'aime, les écoute pas. Voilà. Bon. C'est trop gentil. Mais oui, le jour où on aura des menaces physiques, bon, je ferai attention un petit peu, notamment si ça touche ma famille, quoi. Ça, ce sera la limite, en fait. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Voilà. C'est des mots. Hein. Les gens IRL, ces gens IRL, vous les rencontrez à 1v1, personne ne vient vous voir. C'est-à-dire que moi, je fais ce métier depuis 30 ans. Voilà. Et puis, je suis créateur de contenu depuis 5 ans, vous le savez. Je n'ai jamais... Les gens te reconnaissent un peu dans la rue, quand même. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la rue venir me voir. Moi, je me balade, le visage à l'air... Enfin, je me cache pas, quoi. Je me promène un petit peu dans les rues, à Paris, à Rennes, à Besançon ou ailleurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un, jamais, 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 venir me voir pour me dire un dixième de ce qu'on lit sur les réseaux. Un centième même du mail qu'on vient de lire, jamais. C'est toute la différence entre ce que permet le pseudonymat sur Internet et la réalité, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas tant s'inquiéter de la violence de ces messages. Personne va traverser la rue, enfin moi ça m'est jamais arrivé, personne va même faire un mètre pour avoir le courage de te tenir ces mots là alors que je fais 1m10 et 40 kilos, quoi, tu vois. Donc c'est là où je m'inquiète pas tant que ça, quoi. Le jour où ça arrivera, je m'inquiéterai un peu plus, quoi. Le jour où ça arrivera, c'est que vraiment on sera tombé sur des dingos, quoi. Mais je persiste à penser que il y a un moyen d'arranger ça quand même en France. Il y a un truc qui va pas actuellement dans notre société. Il va falloir travailler là-dessus, quoi. Et peut-être que, passe décisive, les médias peuvent jouer un rôle là-dedans, à condition qu'ils fassent bien leur travail. Quoi. Voilà. Allez. TC 2h07. Médias, comment réconcilier ? Comment réconcilier les Français, quoi ? Attention à ce message d'ailleurs, réconcilier, il ne s'agit pas de réconcilier tout le monde. Hein. On a le droit d'être d'accord, on a le droit d'être dans des accords. Attention, réconcilier tout le monde content, tout le monde d'accord, ça c'est du totalitarisme. Hein. Quand tout le monde pense la même chose, quand tout le monde est ok avec tout, c'est du totalitarisme, hein, c'est l'absence de débat. Bon, il ne s'agit pas de réconcilier tous les Français, hein, c'est pas ça l'objectif. Mais à un moment, c'est accepter de se parler correctement, quoi. Ce qui n'est pas la même chose, quoi. Moi, je suis en désaccord avec plein de gens, mais j'essaie de ne pas les insulter, quoi. Contrairement à certains. Et encore récemment, d'ailleurs. Hop, comment réconcilier ? Sujet suivant, je vous mets dans le titre aussi. Après, c'est une question de maturité, notamment intellectuelle. Ça, on ne peut pas en vouloir non plus à tout le monde, hein. Voilà. Hop, je vous le mets également dans le titre du stream. Ok. Et la flèche TikTok également, comme ça vous savez, on a, il nous reste deux thèmes encore. Hop. Démocratie, médias, comment réconcilier, voilà. Mais attention, réconcilier, il ne s'agit pas de réconcilier tout le monde. Hein. C'est pas ça l'objectif. Dans une démocratie, c'est très sain d'ailleurs, que les gens puissent s'opposer. Mais. C'est la manière de le faire, peut-être. Et on a quelqu'un qui s'appelle Dorian Dreuil dans La Croix, qui est membre de l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès, qui dit « Les médias doivent devenir des ingénieurs de la réconciliation. » Bon. Avec une opération dont vous avez peut-être entendu parler, pardon, qui s'appelle « Faut qu'on parle », qui revient samedi, là, 22 novembre en France. Et à cette occasion, donc c'est une opération que je ne connais pas très très bien, mais j'ai cru comprendre que c'était une opération qui vise à réunir à chaque fois deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un sujet, mais qui acceptent d'en parler. Vous voyez, des initiatives en France actuellement, quand même pour, non pas réconcilier les gens, mais au moins qu'ils se parlent, quoi. Ça, je valide. À cette occasion, Dorian Dreuil, qui est expert associé à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur d'une étude sur le rôle démocratique des médias, revient sur la nécessité des médias de participer à une économie de la réconciliation. Lisons ça, ça a l'air intéressant aussi. Question de La Croix. Quelles sont les évolutions récentes les plus importantes du monde médiatique selon vous ? Ce qui a longtemps été un signal faible est devenu le défi le plus important pour l'ensemble des médias. Répondre à la tendance. Voilà ce que font les médias aujourd'hui beaucoup. Répondre à la tendance mondiale à l'autocratisation des démocraties, c'est-à-dire à l'érosion des régimes démocratiques. Au risque de surprendre, je le redis, ce n'est pas tant les nouvelles technologies ou les réseaux sociaux qui concentrent les enjeux médiatiques les plus forts du moment, mais la fragilisation de la démocratie en tant que système politique. Ok. En quoi ce constat modifie-t-il le rôle des médias ? Cette fragilisation des démocraties est une conséquence de la polarisation grandissante de la société. Bon, ça, je suis d'accord. Certains médias entretiennent celle-ci et ont fait leur modèle économique. Relisons cette phrase. Certains médias ont fait de la polarisation grandissante de la société française leur modèle économique. D'autres médias, à l'inverse, visent à apaiser les débats. Voilà la grande fracture du paysage médiatique actuel. Elle n'est plus seulement d'ordre politique, elle se limite plus non plus entre la dichotomie entre opinion et information. Elle oppose les médias qui minent la démocratie et ceux qui la défendent. Après, je pense que c'est pas aussi noir et blanc que ça, mais bon. D'un côté, les médias qui veulent ressembler à la société, prétendant donner à voir la société telle qu'elle est réellement, voilà, polarisée, mais offrant souvent le miroir déformant des réseaux sociaux. Un truc qui est en train de se développer sur certains médias traditionnels, classiques, radio, télé, c'est de reprendre des polémiques qui naissent sur Internet. Voilà. C'est quand le média traditionnel court après Internet pour dire « Ah là là, il y a une actu c'est la polémique ». Alors ça, c'est un truc, c'est assez étonnant. Voilà. Avec des articles vite faits, des copier-coller rapides, des trucs pas très très écrits, voilà, mais qui vont faire du clic d'ailleurs quand ces mêmes articles des médias traditionnels sont sur les réseaux. Un média traditionnel qui commence à faire de l'info sur les buzz Internet, c'est un truc qui marche pas. C'est pas le rôle des médias. Donc de l'autre, les médias qui veulent rassembler, qui recherchent de nouveaux outils, innovent pour recréer du lien et de la confiance. La Croix dit « Ce fut en effet une erreur des médias, notamment audiovisuels, notez-vous, de miser sur les réseaux sociaux pour entrer en relation avec leur public. Okay. » c'est ce qui est appelé la TV sociale, dit-il, qui a misé sur les interactions avec les auditeurs sur les réseaux sociaux pour doper leurs audiences. Nous appelons de nos voeux une TV sociétale et non pas sociale, qui nous semble davantage correspondre à ces enjeux démocratiques. Elle passe de ces interactions virtuelles à une conversation réelle. Voilà. Et elle vaut pour l'ensemble des médias. La presse écrite a d'ailleurs eu souvent un rôle précurseur en la matière, notamment dans ses pages courrier des lecteurs, mais à cette démarche d'écoute, il faut à présent ajouter un rôle plus actif, une véritable conversation. Qu'est-ce que nous dit cette personne ? Que c'est bien beau de consacrer des rubriques, voilà ce que pensent les Français. Hein, les Français pensent que, les internautes pensent que. Il dit faut aller plus loin. Il dit faut créer un dialogue. Hein. Ou entre ces Français, ou entre les rédactions et les Français. Hein. Une véritable conversation en direction des citoyens en général, y compris ceux qui s'informent autrement. Question de la Croix. Voulez-vous dire que les médias n'ont pas été assez actifs jusqu'à présent dans la conversation démocratique ? Notre note tient moins de la critique que de l'appel à aller plus loin au vu de l'urgence démocratique. Il faut retrouver de nouveaux espaces de conversation, c'est ce que très modestement j'essaie de faire ici sur Twitch et sur TikTok. Il faut créer de nouveaux espaces de conversation, car cela reste la meilleure manière de dépolariser la société. Bon, une grosse partie de mon travail ici qui pourrait se résumer dans cette phrase-là. Car cela reste, ces nouveaux espaces de conversation, la meilleure façon de dépolariser la société. Après, il y en a plein qui ne veulent pas entendre ce message-là, hein, même y compris sur cette chaîne. Mais je le répéterai sans arrêt, jusqu'au bout, moi c'est ce que j'essaie de faire ici. Cela ne signifie pas qu'ils sont les seuls responsables de cette polarisation, largement alimentée par les réseaux sociaux, et notamment les algorithmes, vous le savez. Nous défendons l'idée que les médias peuvent être un antidote en retrouvant le rôle de médiateur des tensions dans la société. En repensant le rôle civique et démocratique, le plus grand risque est ce que nous nommons la guerre des autres, que les médias considèrent que la lutte contre la polarisation ne les concerne pas. La crise de nos démocraties peut être au contraire une opportunité en faisant apparaître l'interdépendance entre système démocratique et médiatique. Vous forgez même la notion d'économie de la réconciliation, qui répondant à une attente du public, moi je pense qu'il y a un public qui, justement, attend cela, des nouveaux espaces de dialogue, est-ce que ce n'est pas un peu optimiste ? Et lui répond, nous assumons cette hypothèse optimiste car elle se fonde sur une attente de l'opinion que nous avons pu mesurer. Selon un baromètre, 88% des Français font de la réconciliation un enjeu important. Je pense que la plupart des Français, ça ne me choque pas qu'une large majorité des Français aient plutôt envie... J'aime pas ce mot réconciliation parce que se réconcilier, ça veut dire finalement se mettre d'accord sur des trucs. Ou alors je le comprends mal, mais moi je veux pas que les Français soient d'accord entre eux. Leur parcours de vie, leurs idées, leurs sensibilités, leurs lectures, leurs rencontres, plein de choses font qu'à un moment tu vas arriver à un corpus d'idées, de valeurs, de positions. Voilà. Je veux pas que les Français soient d'accord entre eux, moi. Voilà, comme le dit Moulbit, je voudrais qu'ils se respectent ou qu'ils s'écoutent. Voilà. Donc ce mot de réconciliation, je suis... Voilà. Il y a Alioche qui dit la réconciliation, c'est la fin du conflit, pas des désaccords. Ok, bah alors là, d'accord. Là, d'accord. Mais même le conflit, c'est sain. Mais même le conflit, c'est sain. Il y a des choses suffisamment graves aujourd'hui dans la France, enfin, et dans le monde, pour qu'on soit en conflit. Moi, ça me choque pas qu'on soit en conflit. Mais il y a une façon de l'exprimer, quoi. Et le mail qu'on a lu à l'instant, tout à l'heure, que je viens de recevoir, il est pas fou, quoi. En termes d'expression d'un conflit. Les médias ne sont pas cités parmi les facteurs de division qui sont d'abord le politique, facteur de division, les réseaux sociaux, facteur de division, les origines sociales, facteur de division. Au contraire, le service public et les médias historiques sont perçus comme les plus rassembleurs. Pourquoi dès lors ne pas envisager que cette attente puisse se transformer en audience ? Pour cela, les rédactions doivent rétablir la confiance par un effort de transparence. Oui, les rédactions des médias ne sont pas assez transparentes. Oui, je le dis depuis toujours, les médias ne sont pas assez transparents sur leur manière de travailler. Ne montre pas comment il fonctionne, ça fait un gros travail de transparence à faire. En ouvrant les rédactions, en montrant comment on travaille. je dis on parce que j'ai beaucoup travaillé dans ces médias, même si aujourd'hui c'est plus le cas, et mettre en valeur ceux qui partout œuvrent à la réconciliation et créent de la valeur sociale. En résumé, les médias doivent devenir des infrastructures de la réconciliation. Bon, c'est un peu flou, c'est un peu vague, mais c'est intéressant. Je vous lis. Je vais bien, Floki, merci de demander. Comment imposer une telle démarche aux médias? Par exemple, CNews est un média dont le fonds de commerce est précisément de polariser. Scambag, on ne peut pas imposer cette démarche aux médias. En fait, l'idée de... merci Lucas pour ton follow. Tu contribues à faire de bonnes stats sur cette chaîne. Merci Lucas DC qui vient d'écrire, il est sénile le vieux. Merci à toi. Merci ton follow. C'est, après, ça me permet de vendre plus cher ma chaîne aux OP. À chaque fois que vous venez de dire des... À chaque fois que vous venez injurier ici dans le chat sur cette chaîne, il faut follow en fait pour ça. Et donc vous me donnez de la force. Donc merci pour ça. On ne peut pas imposer cette démarche aux médias. En revanche, le pari de ce monsieur, c'est très optimiste, hein, c'est qu'il y a un marché pour ça et qu'il y a des Français et des Françaises aujourd'hui en France qui sont OK pour se parler et écouter les autres, quoi. Ouais. Mais de même qu'il y a des médias, eux, qui font le pari de la polarisation. Merci Fart of War. Fart of War. Mais les médias ont une responsabilité là-dedans. Les réseaux sociaux ont une responsabilité là-dedans. Les politiques ont une responsabilité là-dedans. Les citoyens aussi. C'est une responsabilité partagée. Et ensemble, il faut travailler là-dessus, quoi. Pourquoi j'ai été ban Floki? Je pense que c'est un misclic, hein. Je pense qu'il y a une petite erreur de... Je pense qu'il y a une petite... Parfois, entre deux messages, ça glisse. Allez, on finit par les jeux vidéo? Ça vous va? On fait ça? Hop, c'est sur Netflix. Allez, on est à 2h19, 2h20. Ok, let's go. Et après, je vais à mon shooting. J'ai un shooting. Je suis mannequin à mes heures perdues. Mannequin yep, je le rappelle. J'ai de très beaux pieds. C'est une façon d'arrondir un peu les fins de mois. Non, j'ai un shooting de 3h cet après-midi. D'abord, j'ai assez long parce que j'ai un soin des pieds, maquillage pied après. Et après, il y a différents stylismes, différentes chaussures, différents pantalons et tout. Donc ça, je vais passer au moins 3 heures cet après-midi. Netflix et le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, hop. Voilà. TikTok, je vous le mets aussi. Le titre du stream aussi, comme ça vous arrivez, vous êtes au courant. Let's go. Et TikTok, la flèche. Je travaille sur un nouveau sommaire, là, beaucoup plus joli, beaucoup plus... Mais il y a eu un petit bug quand j'ai voulu mettre en place, là, tout à l'heure. C'est un ami viewer qui me l'a proposé. Il y a un truc que j'ai pas su faire. Mais on travaille dessus pour un plus joli sommaire. Appliqué. Merci aux merdes, alors. Alors... Moi, bon, je suis comme certains d'entre vous, je suis client Netflix, j'ai un abonnement Netflix et je vois effectivement il y a des jeux vidéo. J'ai une erreur de tag. Netflix et jeux vidéo, ça a l'air ok. Ça va, tout va bien? Vous me dites. Et comme beaucoup, j'ai vu que Netflix proposait des jeux vidéo, mais je sais pas ce que ça vaut. Je suis jamais allé voir. J'ai toujours dit, ça ne doit pas forcément être super, quoi. Il y a un article dans Les Échos ce matin qui parle de la nouvelle stratégie dans le jeu vidéo de Netflix. Et ça, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de demander aux viewers si ils utilisent les jeux vidéo sur Netflix. Depuis son studio finlandais Next Games, le groupe Netflix a donc dévoilé les nouveaux jeux qui viendront garnir son catalogue de contenu. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Netflix dans le jeu vidéo, Boggle Party, Lego Party, Tetris Time Warp, Barbie Color Creation. Jeudi dernier, le géant mondial du streaming vidéo a mis en orbite une flopée de nouveaux titres disponibles au sein de son catalogue et qui acte sa réorientation stratégique dans le jeu 4 ans après son arrivée sur le marché. C'est des jeux mobiles, je pense. Hein. C'est ça. C'est en Finlande, terre de jeux vidéo, et plus précisément depuis son studio maison Next Games, que Netflix a présenté plusieurs de ses nouveaux titres. Ouvrant pour la première fois la porte de ce studio, racheté 72 millions de dollars début 2022, Netflix a partagé sa vision de l'entreprise et du marché, proposant aussi des sessions hands-on, des tests avec manette de téléphone à la main, à un panel de journalistes internationaux, comme c'est régulièrement le cas dans le secteur. J'ai pas été invité. J'aurais bien voulu. C'était où ? En Finlande, en plus. C'est dingue, ça. On m'invite jamais. Ah, j'ai été contacté il y a pas longtemps, là. Je crois qu'on va me donner un prix. Je crois... J'ai cru comprendre que je vais recevoir un prix. Les gars. Moi, j'ai envie de dire... Road to 2027, cette histoire. Non, pas pour mon cuir chevelu. Un prix pour quoi ? Suspense. Suspense. Chez Next Games, donc du côté de Netflix, on dit « Nous sommes concentrés sur les jeux mobiles. » Ok. « Et les jeux d'ambiance multijoueur. » Voilà. Donc, il y a 3 party games qui viennent d'arriver. Tous disponibles depuis le 13 novembre. Jouable sur la télévision avec le smartphone en guise de manette, une fonctionnalité nouvellement lancée par Netflix. Boggle Party, Party Crashers, Fool Your Friends et Pictionary Game Night. Le studio a aussi développé le jeu mobile Netflix Puzzle, s'inspirant de programmes phares de Netflix tels que Stranger Things ou encore Emily in Paris, qui sortira le 26 novembre. Voilà. Fin 2021, déjà, le groupe avait mis sur orbite sa première offre de jeux maison, disponible sans surcoût associé pour les abonnés payants. Celle-ci est venue compléter le catalogue de contenu Netflix déjà riche, séries télé, films, podcasts, documentaires, vous connaissez. Cette nouvelle activité est aussi une manière pour le groupe d'épaissir son arsenal dans la guerre de l'attention que se livrent les géants de la tech et les poids lourds de l'entertainment, alors que le jeu vidéo compte toujours plus d'adeptes. Et c'est tant mieux. Ah, j'avais pas vu le sondage. J'ai un sondage en cours. Les modos, merci à eux, vous êtes des goats. On lançait un sondage sur Twitch. Est-ce que vous jouez via Netflix ? Oui, c'est cool, 14%. Non, pas terrible, 37%. J'ai pas Netflix, 49%. Ah, je suis surpris, je pensais que vous seriez plus à la voir, ok. N'hésitez pas à voter, les amis. Il y a un sondage, là, ok, en cours, en haut du chat. Donc, très vite, la société a mis la main au portefeuille et a acheté plusieurs studios de développement, tout en mettant sur pied des forces de production en interne. Une manière de mixer les jeux made in Netflix et les titres de studios tiers. À l'époque, la plateforme avait de grandes ambitions et n'entendait pas se limiter au pan du jeu mobile d'ailleurs, mais comptait attaquer aussi le segment PC et console. Mais hélas, comme d'autres géants avant lui, le groupe a peiné à trouver la bonne formule, donc j'ai l'impression qu'on reste sur du jeu mobile. Quelques mois après le lancement, moins de 1% des abonnés à Netflix jouaient quotidiennement à l'un des titres proposés. Bah voilà. Moi, c'est mon... Oui, je pense que dans le sondage, il manque quelque chose en fait. Dans le sondage, il manque pas essayer. Ou je savais pas que sur Netflix il y avait ça. Moins de 1% des gens sur Netflix jouent aux jeux vidéo sur Netflix. Donc c'est pas un succès fou, quoi. D'ailleurs, dans le sondage, il dit actuellement que vous êtes moins de 5% à trouver ça cool. Vous êtes quand même 47% à dire que c'est pas terrible. Donc des gens qui a priori savent que ça existe et ont pas trouvé ça terrible. Voilà. Nous ne sommes pas là pour rivaliser avec les consoles, dit-on maintenant du côté de Netflix. Voilà. Et pour l'instant, il n'est pas question de monétiser cette activité. Il y a Amin Spoon qui dit « Mais personne ne leur a demandé de faire des jeux, en fait. » Fin 2024, le groupe avait fermé son studio Blue, dont les équipes travaillaient sur ce qui aurait dû être son premier jeu AAA. À très gros budget destiné aux PC et consoles. J'ai essayé Amazon Gaming, c'est tout buggé, j'ai arrêté, me dit Baba. Il y a Camille qui me dit, moi j'ai déjà essayé, j'ai pas de PC, c'est un bon moyen de jouer sans avoir le matériel adéquat. Depuis, il s'est recentré sur plusieurs typologies de jeux, donc ils sont plus simples, quoi. Party games. Ok. Il y a un GTA San Andreas sur Netflix, en jeu. Hier soir, j'ai failli y aller voir. Mais bon, j'ai préféré lire les journaux. Et le 2 décembre, il proposera à nos Netflix la version mobile du blockbuster Red Dead Redemption. J'ai un peu peur. Un jeu aussi complexe, aussi riche que Red Dead ou GTA, mais en mobile, ça donne quoi en vrai? Quelqu'un a fait ça déjà? Je sais pas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un Civ 6 aussi. C'est vrai. Quelqu'un a essayé ça? Madine, c'est le même jeu? C'est le même jeu? Le Call of Duty mobile BR était top. En mobile, ouais, enfin sur le téléphone, sur l'iPad, quoi. Ou sur la télé, mais avec le téléphone comme télécommande, quoi. Pour le coup, j'ai fait les GTA sur iPad, c'est top, me dit Cilian. GTA sur mobile, j'ai essayé, c'est le même jeu, me dit Boulbit, mais c'est la galère. Ok. Ok. C'est le même jeu, me dit FRJ. J'ai testé, mais j'y arrive pas avec les contrôles, donc j'ai vite laissé tomber. Ah, tu peux connecter une manette, me dit Guilord. Ok. Manette Bluetooth et c'est parti. Ok. Ah. Tester ta manette Bluetooth, mais alors que tu connectes ta manette Bluetooth à quoi? À ton iPad, à ton téléphone, voire à la télé? Ok. Ok, bon. Bon, mais l'idéal, c'est que je teste, mais j'ai pas eu le temps hier soir. Ok. Bon, en tout cas, Netflix cherche à se développer dans cet univers. Sans manette, t'as les doigts sur l'écran, donc ça cache la moitié de l'écran. Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est pas fou. Ok, les amis, merci pour cette revue de presse. C'était cool, non? Oh, cette petite revue de presse. Merci ami de TikTok. Merci ami de Twitch. Hop. À demain. Bon, demain, c'est l'heure normale. Hein. Demain, c'est l'heure normale. Pardon, cette revue de presse qui a commencé vers 11h, non? 11h30, je sais plus. Petit rendez-vous chez le médecin ce matin, qui en plus a été décalé, parce que le médecin avait un petit peu de retard. Super médecin d'ailleurs. Donc, pas. Si, stream ce soir, bien sûr. Mais que sur Twitch, par contre. Ce soir, on fait quoi? Ah, il y a Valo qui me gratte en ce moment, mais. Il y a plein de jeux qui me grattent. Mais. Voilà. On a passé une bonne soirée vendredi soir avec les amis sur Valo, c'était cool. Donc, peut-être un petit Valo ce soir, je sais pas. Donc, en tout cas, demain matin, la revue de presse. Ce soir, du gaming, mais que sur Twitch. Demain matin. C'est samedi soir, t'as raison, Sugar. Donc, demain matin, la revue de presse à une heure normale, hein, 9h, 9h30. Hein. J'ai bien aimé Splinter Cell en vrai, Moulbit. Et puis mercredi, je vous rappelle, mercredi, il y a le retour d'MVP. Voilà, je suis très content parce que j'adore cette émission. Hop, MVP. Normalement, c'est deux mercredis par mois, mais là, on a passé 2-3 semaines sans MVP parce qu'il y avait d'autres choses. Et donc, on a un beau MVP, mercredi 10h, avec une revue de presse qui sera lancée un petit peu avant, en guise d'apéritif. Et avec l'ami Mastu qui va nous rejoindre pour la grande interview à partir de 12h. MVP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. On parle de job, de secteur d'activité, de métier, de formation, d'orientation, pour les jeunes, pour les moins jeunes, dans une ambiance toute chill. Il y a toute une bande de chroniqueurs, vous les voyez ici, super sympa. Il y a plein d'invités, ça va être top. Voilà, n'hésitez pas à venir. C'est que sur Twitch par contre. L'émission, c'est sa deuxième saison et elle marche bien. On est très très fiers, c'est vraiment une très très belle émission. Donc ça, c'est mercredi à 10h. Voilà. Demande à Mastu l'origine de son pseudo. Je sais, Alastair, je sais. Et à 10h, à midi, il y aura Mastu, qui a une belle actualité aussi, avec qui on reviendra sur son parcours, qui est très sympa parce qu'il est comme Camille Combal, il a un emploi du temps de fou aussi. Amis TikTok, je vous embrasse. Merci d'avoir été là ce matin, ça me fait bien plaisir. Ce matin, ce midi, quoi. Bon appétit. Il est presque 14h. Bon appétit, bon après-midi, bonne journée. À ce soir sur Twitch. Voilà. Pour mettre des têtes sur Valo, je pense. Je pense qu'on va partir sur ça. Merci les amis. À très vite. Et sur Twitch, un petit raid. Un petit raid. Elle était bien dans votre prête de ce matin, c'était cool. Ah, ce soir sur la faille de l'invocateur. Putain, vous voulez qu'on lance LOL comme ça? Qui a sur en live là? Merci Camille pour le 5 abonnements faire la commu. Merci à Yoros, merci Setor. Merci à RX1, c'est incroyable. Putain, Sugar, il rêve d'un arc LOL. Comment ça, il arrive en traversée atlantique? C'est quoi cette histoire? Il arrive, il est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est génial. Rivenzi, Martinique, Lorient à la voile. J8 de la traversée, on se rapproche de l'arrivée? Mais je suis pas au courant. Avec un bonnet dans son bateau, là? Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est génial. On me dit rien, Sugar, tu en as jamais parlé. Allez. Allez, on va sur le bateau, on va voir Rive avec son... C'est un breton, Rive, c'est un bon. Et il a un beau bonnet de breton, là. C'est parti. Je lance le raid. Merci pour ce matin, merci pour la force, merci pour l'amour. À ce soir pour du Valo, pour rigoler encore. Et demain matin pour la revue de presse. Prenez soin de vous, je vais à mon shooting photo. Des bisous. À ce soir, merci encore. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.
Ramener le bateau en bon état pour la suite des projets. Est-ce que le bateau fait un peu peur aussi? Bah, ça fait très peur quand t'as du creux, quand t'as des creux, quoi, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment... ça peut être chaud. Oh là là, Samuel Etienne, bonjour.